Aujourd'hui, certaines collectivités s'y mettent et plusieurs villes ont même peint en blanc les toits de leurs bâtiments, tels gymnases ou écoles. Et les retours d'expérience sont positifs avec le constat d'une économie d'énergie de 25% été comme hiver. Sur Agde, il est prévu de moderniser les façades des immeubles dans le plan de réhabilitation de la promenade. En raison du réchauffement climatique et de la disparition d'une vingtaine de platanes, avez-vous envisagé de peindre les façades en blanc ? Concernant le Cap d'Agde, le PLU de la ville d'Agde prévoit une polychromie des façades. Envisagez-vous de la modifier et de favoriser une peinture blanche plus écologique et moins coûteuse ? Ça, c'est ma première question, donc j'attends vos réponses. J'attends vos réponses pour celle-ci, ça sera plus... Ah, alors on listera. Ma deuxième question concerne l'avenue du Général de Gaulle, numéro 24, immeuble Oppidum, où la largeur réglementaire du trottoir n'a pas été respectée. Elle doit être au minimum d'1,40 m dans la continuité du trottoir existant, sans qu'il y ait de saillie. Arrêté du 15 janvier 2007, consolidé le 3 octobre 2012. Selon l'article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, article fondateur du pouvoir de police administrative générale du maire, ce dernier doit assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique, et notamment tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. Les travaux de cet immeuble, qui comprend 15 logements sociaux, sont à l'arrêt depuis plusieurs mois. Pouvez-vous m'en donner la raison ? Dans la continuité de cet immeuble, la ville a accordé un permis de construire pour une autre promotion immobilière. À nouveau, la largeur du trottoir n'est pas réglementaire. Ignorez-vous vos obligations ou ne souhaitez-vous pas faire appliquer la réglementation en vigueur ? Ma dernière question concerne le théâtre Agathois. Pouvez-vous me dire quelles sont les compagnies sous contrat en résidence au théâtre Agathois et quel est le budget qui leur est alloué ? Merci pour vos réponses.
Alors, sur les couleurs des façades à Agde. D'abord, alors les couleurs des façades, Madame Varesano, de la promenade ne seront pas peintes en blanc. L'instruction, tout simplement parce que l'instruction de la campagne de ravalement des façades est visée par l'architecte des bâtiments de France avec une déclinaison des tons pierre et ocre conforme à l'esthétique historique du lieu qui doit être respecté et parfois restauré. D'ailleurs, nous allons refaire les façades de toutes les maisons le long de la promenade avec l'agglomération. Et tout ça est visé et doit être conforme à l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Voilà. Donc s'il nous décide de mettre des ocres, on est obligé de mettre des ocres et on ne peut pas mettre du blanc partout. Concernant les platanes de la promenade, le nouvel agencement des sujets existant permettra, sur les conseils de l'ONF, l'Office national des forêts, et les experts du patrimoine arboré de la communauté d'agglomération, un meilleur développement de leur feuillage. L'ombrage souhaité sera donc conservé et les sujets en meilleure santé. Voilà, chaque arbre pouvant ainsi s'épanouir au mieux. Or, sur le cap, chaque façade doit faire l'objet d'une demande préalable de travaux visé par les services instructeurs de l'agglomération et notre architecte conseil. Ces éléments doivent être conformes au règlement d'urbanisme en vigueur. Le blanc peut, selon les cas, être une couleur identifiée dans les ravalements de copropriétés et maisons individuelles. Cependant, le prix d'une façade ne tient pas uniquement au choix de sa couleur, mais au revêtement souhaité, au traitement apporté au bâtiment. Voilà, donc lorsque cela était possible, la ville a donné d'ailleurs, en favorisant le blanc, le ton à travers l'ensemble de l'entrée du Cap, je vous renvoie au Palais des Congrès, au Casino, et enfin à toutes les façades d'ailleurs des bâtiments sur le quartier du cœur de station. Concernant l'avenue du Général de Gaulle, sur cette parcelle que vous visez, la LA 358, je vous rappelle que les règles d'urbanisme sont parfaitement appliquées, car la construction doit être édifiée à l'alignement de la parcelle et donc à la limite du domaine public, ce qui est le cas. En outre, en dehors des espaces réservés, listés et définis dans le PLU, il n'est juridiquement pas possible pour la commune de s'attribuer tout ou partie d'un terrain privé. Quant à l'arrêt des travaux, nous ne pouvons intervenir qu'après une année pleine d'interruption, ce qui n'est pas le cas dans ce cas bien précis, en l'occurrence. Concernant le théâtre, depuis son ouverture, le théâtre Agathois, le fameux TAG, a accueilli deux résidences de création, Nous sommes sur la mise à disposition de locaux et de personnel professionnel pour une création ou expérimentation de nouveaux spectacles par la compagnie en résidence. En contrepartie, la compagnie propose une représentation qualifiée de sortie de résidence où sont conviés presse et programmateurs ainsi que le grand public. Les recettes, je le rappelle, de la billetterie reviennent entièrement au théâtre et donc à la ville. Voilà, il y en a eu deux. Jusqu'alors, une de la compagnie, selon la raison du spectacle Play, hein, l'association Inti, et une autre de la compagnie Zerafa, compagnie locale également. Les prochaines résidences attendues, d'ailleurs, je vous l'annonce, sont pour la compagnie Caracol en bientôt, là, en novembre 2023. En décembre 2023, Yanis Cross Tour pour la musique, et le 8 au 9 janvier, la compagnie Julie Albano pour du théâtre. Voilà. Bien, Madame Raffanel, pour la question 1 à l'ordre du jour, à savoir la décision modificative numéro 1 au budget principal.
Merci Monsieur le Maire, bonsoir à toutes et à tous. La décision modificative numéro 1 du budget principal de la ville s'équilibre globalement à 55 750 euros, donc investissement et fonctionnement confondus. Pour le fonctionnement, les dépenses nécessitent en fait l'octroi de crédits supplémentaires, essentiellement sur les chapitres 11 et 65, donc chapitre 11 qui répertorie les charges à caractère général, et le chapitre 65 pour les autres charges de gestion courante. Plus particulièrement, ces dépenses sur le chapitre 11, elles sont à hauteur de 81 400 euros, dont notamment 55 000 euros pour l'achat de marchandises qui généreront des recettes supplémentaires de 60 000 euros. Sur ce point-là, il concerne en fait le Centre international de tennis qui doit réapprovisionner donc le Pro Shop avec son stock, puisqu'aujourd'hui nous en sommes à plus 150 000 euros de recettes pour la boutique du tennis, d'où du coup la demande supplémentaire d'achat de marchandises. Concernant le chapitre 65, il faut relever principalement l'ajout de 87 850 euros, dont 75 000 euros pour un complément aux admissions en non-valeur. Nous en parlerons tout à l'heure. Et puis au chapitre 67, sont inscrits 1 000 euros supplémentaires pour les autres charges exceptionnelles. Et enfin, un virement est effectué au profit de la section d'investissement pour un montant de moins 110 000 euros 250. En investissement, cette décision modificative, elle est rendue nécessaire pour la prise en compte de plusieurs écritures de régularisation et notamment des virements entre chapitres. Il est ajouté en recette 106 000 euros d'amende de police suite à la notification que nous avons reçue. Et enfin, la section, donc le virement de la section de fonctionnement par le virement de 110 250 euros. Cette décision modificative numéro 1 du budget principal s'équilibre ainsi à moins 4 250 euros en section d'investissement et à 60 000 euros en section de fonctionnement.
Merci. Madame l'adjointe aux finances, y a-t-il des remarques sur cette question numéro 1 ? Non, donc qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc elle est adoptée. La question 2, DM numéro 1, au budget annexe du Golf.
Je vous propose donc la décision modificative numéro 1 du budget annexe du Golf qui s'équilibre à hauteur de 75 900 euros en section de fonctionnement et de 73 400 euros en section d'investissement. Alors, en fonctionnement par rapport aux dépenses, on remarque l'inscription de 2 300 euros en moins de charges à caractère général, un complément de 2 500 euros pour le remboursement des intérêts d'emprunt, l'ajout de 1 500 euros en dépenses de gestion courante et un ajustement du virement qui est effectué au profit de la section d'investissement pour 73 400 euros. Par rapport aux recettes, c'est l'inscription de nouveaux produits des services à hauteur de 75 900 euros. Par rapport à l'année dernière, à titre d'information, on en est à plus 80 457 euros de recettes supplémentaires pour le budget du Golf. Par rapport à la section d'investissement et aux dépenses, on remarque donc l'inscription de 70 800 euros pour permettre donc un ajustement et terminer les travaux du clubhouse et un complément pour 2 600 euros par rapport au remboursement du capital des emprunts. Et en recette, c'est équilibré avec la section d'investissement via le virement pour un montant de 73 400 euros.
Très bien. Le Golf qui a fait 80 000 euros de supplément de recettes aussi cet été. Tant mieux pour nous. Y a-t-il des remarques sur ce budget du Golf ? Non ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc adopté. Question numéro 3, j'annexe à l'île des loisirs, DM numéro 1 également.
Oui, alors cette DM s'équilibre à hauteur de 0 euros en section de fonctionnement et de 48 696 euros en section d'investissement. Par rapport au fonctionnement, c'est essentiellement l'inscription en dépense de 2 600 euros pour des frais d'acte et un virement à la section d'investissement pour le même montant. Et en section d'investissement, c'est l'inscription d'une écriture de régularisation de frais d'études à hauteur de 48 696 euros en dépenses et en recettes. C'est une opération d'ordre à l'intérieur de la section, et puis une diminution de 2 600 euros de travaux, ainsi qu'un virement à la section de fonctionnement pour le même montant.
Voilà, il dit loisirs, nous avons fait un peu place nette avant la saison, hein, en détruisant les derniers locaux là, à l'entrée. Y a-t-il des remarques sur ce budget ? Non, donc qui est contre ? Qui s'abstient, donc il est adopté. Les admissions non-valeur ?
Oui, alors le receveur municipal a transmis un état des titres donc irrécouvrables, dont le montant total admis s'élève à 96 826 euros sur le budget de la ville. Alors il s'agit en fait de titres qui ont été émis entre 2012 et 2022, qui sont déclarés irrécouvrables en fait du fait essentiellement de l'insolvabilité des débiteurs pour cause la plupart du temps de liquidation judiciaire ou de leur disparition. Alors on rappelle que cette admission en non-valeur que l'on va prononcer ne constitue pas une remise de dette et ne fait donc pas obstacle à l'exercice de poursuite si des éléments nouveaux venaient modifier la situation des débiteurs. Donc au regard des motifs d'irrécouvrabilité présentés par le receveur municipal, je vous invite à vous prononcer sur l'admission en non-valeur des produits irrécouvrables à hauteur de 96 826 euros pour le budget de la ville.
Des remarques là-dessus ? Oui, monsieur Figueras ?
Oui, bonsoir, merci. Juste une petite remarque sur une dont on avait parlé en commission cette semaine, pour 75 000 euros qu'on retrouve dans le budget principal, où je trouve que c'est un peu dommage parce qu'on perd un peu bêtement de l'argent puisque c'est une dette qu'on n'a pas recouvrée, d'après ce qu'on m'avait dit, donc sur une concession de plage, mais sur une durée de plusieurs années, au moins 2 ans.
C'est 2 ans. C'est 2 ans.
Oui, alors je...
Donc ça veut dire que le débiteur n'a pas payé son année de location et on l'a quand même reconduit l'année d'après. Il n'a toujours pas payé. Finalement, on a perdu. Donc peut-être en réagissant avant, on aurait économisé au moins la moitié.
Alors sur ce point-là, effectivement, il s'agissait donc d'une dette pour la SAS La Plage d'un montant de 75 000 euros. C'est 2 années non payées, 2018 et 2019. Suite à cela, le service des finances et les services associés ont mis en place des procédures. Donc il y a un contrôle systématique de vérification s'il y a des impayés ou pas avant de renouveler maintenant une convention. Et également, on réfléchit à mettre, comme on avait échangé ensemble, un système d'acompte par rapport à la perception de ces loyers.
Très bien. D'autres remarques ? Sinon, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, adopté. La question suivante, Clémence, c'est la question 5.
Oui, il s'agit de l'adoption de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2024. Donc en fait, cette nomenclature, c'est l'instruction la plus récente du secteur public local. Ce référentiel, donc M57, s'étend à toutes les collectivités et elle étend donc les règles budgétaires de façon assouplie pour offrir une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. Alors en matière de gestion pluriannuelle des crédits, donc gestion en autorisation de programme, de fongibilité des crédits, c'est-à-dire la possibilité d'effectuer des crédits, des virements de crédit entre chapitres, ce qui n'était pas possible actuellement, et par rapport aux dépenses imprévues, la possibilité d'autorisation de programme et d'engagement de dépenses imprévues. Donc le périmètre de cette nouvelle norme comptable sera celui des budgets gérés en M14, donc le budget principal de la ville et les 2 budgets annexes, centre aquatique et île des loisirs, et par rapport au budget du golf, lui, il reste en M4.
Très bien, des remarques là-dessus. Sinon, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, adopté. La question numéro 6.
Il s'agit de l'adoption d'un règlement budgétaire et financier. Donc, en fait, la ville ayant choisi d'adopter la nomenclature budgétaire M57 au 1er janvier 2024, cette nomenclature prévoit, en fait, l'instauration d'un règlement budgétaire et financier qui sera valable pour la durée de la mandature. Donc, ce RBF a pour objet de préciser, en fait, les règles comptables et financières qui s'imposent, en fait, au quotidien dans la préparation des actes administratifs de la collectivité. Et il permet ainsi de regrouper dans un seul document unique les règles fondamentales auxquelles sont soumis l'ensemble des acteurs en fait qui interviennent dans le cycle budgétaire. Donc, ce règlement budgétaire et financier, vous le retrouvez en annexe. Il comporte 7 parties. Donc, vous pourrez retrouver toutes les informations sur le processus budgétaire, la commande publique, l'exécution budgétaire, la gestion du patrimoine, mais également la gestion de la dette, les régies et ce qui concerne toutes les informations et la communication financière. Donc, ce règlement, évidemment, il évoluera en fonction des modifications législatives et réglementaires, mais également des modalités internes de la commune.
Merci. Y a-t-il des remarques là-dessus? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La question numéro 7.
Il s'agit de la fixation de la règle des amortissements au prorata temporis. Alors effectivement, la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 va permettre de faire le point sur des procédures d'amortissement qui sont actuellement en cours. Elle va permettre de les rationaliser, de les mettre aux normes pour compléter les nouveaux besoins. Donc il était nécessaire de fixer des nouvelles durées d'amortissement pour les immobilisations acquises à compter du 1er janvier 2024. Et vous trouverez le tableau joint qui précise ces modalités d'amortissement. Il est précisé que la méthode appliquée sera l'amortissement linéaire au prorata temporis pour les biens acquis à compter du 1er janvier.
Merci Clémence. Y a-t-il des remarques là-dessus? Sinon, qui est contre, qui s'abstient? Donc adopté. La question numéro 8.
Oui, il s'agit de l'institution de la majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Alors, conformément à l'article 1407 du Code général des impôts, les communes qui sont situées dans le champ d'application de la TLV, la taxe sur les logements vacants, donc pour rappel, cette taxe, elle est perçue par l'État et non plus par les communes. Donc, ces communes-là peuvent instituer une majoration de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ce taux peut être compris entre 5 et 60%. Nous vous proposons une majoration de taxes d'habitation sur résidence secondaire à hauteur de 15%, ce qui va nous permettre, avec ces recettes complémentaires, d'investir sur deux axes forts. D'une part, la rénovation de l'immobilier de loisirs au niveau du Cap d'Agde, et d'autre part, d'accélérer notre programme de réfection des voiries au Gros d'Agde. Donc, je vous propose d'adopter une augmentation de 15% pour la taxe d'habitation sur la résidence secondaire.
Y a-t-il des remarques? Oui, Madame Varezano. Monsieur Nadal.
Oui, je constate que les propriétaires de résidences secondaires, après avoir subi la hausse de leur base d'imposition de 7% par l'État sur la taxe foncière en 2023, vont subir une hausse de 15% sur leur taxe d'habitation à partir de 2024, cette fois décidée par la commune. D'autre part, le parc des résidences secondaires est plus important que celui des résidences principales, ce qui va apporter des recettes supplémentaires conséquentes. L'État a compensé intégralement la perte de recettes sur la taxe d'habitation des résidences principales. De ce fait, la mairie perçoit la partie qui était auparavant prélevée pour le département. De plus, le taux communal de la taxe foncière était auparavant de 25,46% et il est passé à 49,91%. Dans ces conditions, pour quelles raisons augmenter de 15% la taxe sur les résidences secondaires ? Ne pensez-vous pas qu'à l'inverse de laisser plus de résidences principales vacantes, cela fasse fuir les propriétaires de résidences secondaires, s'écrouler le tourisme et par là même le marché immobilier dans notre ville ?
Monsieur Nadal ? Monsieur Nadal, allez-y.
Oui, merci, monsieur le maire. L'objectif de surtaxer les résidences secondaires dans une zone où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logement, avec des prix et des loyers élevés, est tout à fait louable. Cependant, cette délibération appelle deux observations de notre part. Premièrement, pourquoi continuer à favoriser la construction d'habitats secondaires si vous pensez qu'il y a une carence de logements principaux ? Deuxièmement, pensez-vous réellement que cette mesure favorisera l'émergence de logements principaux à l'achat ou à la location ? En effet, une partie des résidences secondaires a été achetée dans les années 70 par des petits épargnants. Ces logements sont pour la plupart très énergivores, au point que leur classement énergétique interdit toute location. Cette mesure pénalisera essentiellement les petits propriétaires qui ne pourront ni louer ni vendre, avec un risque pour la ville d'une déprise foncière. Finalement, si la loi justifie pleinement cette mesure, le but que vous cherchez n'est-il pas, tout simplement, d'apporter des recettes supplémentaires à la ville? Et je crois que vous aviez estimé que ces recettes supplémentaires seraient de l'ordre de 2,5 millions à 2 millions. Je ne sais pas si les chiffres sont...
Je vous répondrai, allez-y.
Enfin, on en discutera. Donc, d'apporter des recettes supplémentaires à la ville, sans soucier de savoir si l'impact réel sera de favoriser un habitat permanent.
Alors juste, on va dédramatiser tout ça. 15% d'augmentation représente en moyenne 49,50 € par résidence secondaire, monsieur Nadal et madame Varaison. Je rappelle, ce sont des résidences secondaires et que le budget attendu de cette augmentation sera de 1 275 000 €. Je rappelle que donc cette somme, alors 49,50 € madame Varaison et monsieur Nadal, pour des gens qui louent sur Airbnb, c'est la moitié d'une nuit. Je dis juste à peu près pour vous donner un ordre pour un studio, hein, un ordre de comparaison. Cette somme, je le rappelle, sera dédiée exclusivement, et il est normal que les résidences secondaires participent à l'effort d'intérêt général, à la rénovation de deux résidences immobilières à la fois au Mall et sur le quai Saint-Martin qui sont parmi les plus anciennes du Cap d'Agde, hein, puisque la région a lancé un plan pour nous aider à rénover ces vieilles résidences secondaires. Alors je parle de résidences, hein, des ensembles immobiliers, donc pour favoriser notamment la remise en exergue des parties communes. Voilà, donc il y aura une partie de la somme de ces 1 250 000 qui sont dédiées à cela. Et donc il est normal que ce soit les résidences secondaires qui payent cet effort communal. Et une deuxième partie du budget sera attribuée à la réfection des voiries, notamment sur le littoral et particulièrement au Gros d'Agde. Voilà. Donc nous estimons cette mesure juste, d'abord parce qu'il est normal que les résidences secondaires, qui rendent très peu, vous le savez bien, de taxes de séjour, participent un petit peu plus à l'effort pour qualifier l'espace public, ce qui d'ailleurs, au passage, valorisera les résidences secondaires, et non pas les dégradera, monsieur Nadal. Hein, parce que lorsque vous investissez autour des résidences secondaires, ça valorise justement leur mise en avant et donc facilite leur vente ou leur location. Voilà, donc c'est tout le contraire que nous voulons. Et donc dans ce produit, 2 250 000, je rappelle au passage que toutes les communes du littoral augmentent au taquet, c'est-à-dire à 60%. Hein, c'est le cas de tous nos voisins. Nous avons choisi, je pense, une mesure tout à fait équilibrée, 15%, 49,50 € en moyenne par résidence secondaire. Ça nous semble tout à fait raisonnable pour justement participer à cet effort de rénovation pour rendre encore plus, je dirais, plus esthétique le littoral des 14 kilomètres de littoral de la commune. Et monsieur Nadal, c'est pas parce qu'il y a des résidences secondaires supplémentaires. Au contraire, là, vous répondez à madame Varaison, ça accélère, je dirais même, on veut surtout pas perdre l'attractivité touristique qu'apportent les résidences secondaires, juste qu'elles participent un peu plus à l'effort collectif. Et donc, je m'y engage ici. La valeur de cette somme sera strictement attribuée à ces éléments de dépenses que je viens de vous décrire. Hein, tu veux dire quelque chose?
Oui, peut-être pour répondre sur un point en particulier à madame Varaison. Le produit fiscal correspondant à la taxe d'habitation est certes reversé aux communes, mais il n'est pas indexé. C'est-à-dire que depuis que la taxe d'habitation a été supprimée, nous percevons le produit fiscal qui aurait dû être perçu il y a quelques années. Et depuis, c'est toujours le même. Donc, évidemment, inflation aidant, vous voyez bien que l'écart se creuse entre ce qui nous est reversé et ce que nous aurions dû percevoir si la taxe d'habitation avait continué d'exister. C'est important quand même de souligner, c'est un fait et qui s'applique à toutes les collectivités, enfin à toutes les communes de France. Et ensuite, il faut aussi, parce que la suppression de la taxe d'habitation a changé beaucoup de choses. On aurait eu ces débats il y a quelques années, on aurait pu en effet dire les agatois sont concernés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Sont concernés les propriétaires, alors, modestes ou pas, monsieur Nadal, qui habitent toutes les autres régions de France et qui ont une résidence secondaire ici à Agde. Et on considère que, finalement, rattraper cette indexation qui n'a plus lieu par une majoration de la taxe d'habitation, ce n'est pas injuste, parce qu'il n'y a pas cause agatois de payer pour que nous réalisions notre programme d'investissement. Et puis, il y a aussi, c'est vrai, des agatois qui payent la taxe d'habitation, mais parce qu'ils ont fait un investissement locatif, et donc à ce titre, ils perçoivent des revenus locatifs. Ce n'est pas scandaleux qu'ils participent. Donc c'est une contribution de personnes extérieures à notre commune, ou bien de gens agatois qui ont fait des investissements locatifs.
Monsieur Figueras, vous voulez réagir ?
Oui, juste rajouter un point. Donc j'entends les arguments que vous donnez. Je le répète, comme l'a dit le docteur Nadal, très louable. Moi, je suis assez pour par rapport à ce que vous
c'est
dites.
C'est pas en tant que docteur qui l'a dit.
Oui, bon.
Non, mais je suis de touche du groupe.
Je le respecte.
On n'a pas de titre ici. On est tous conseillers municipaux. Allez-y.
Alors, du coup, j'entends vos arguments. Pourquoi pas ? Par contre, ce qui ne va pas, c'est ce qui est écrit dans la délibération, du coup. Parce que, je lis, l'objectif de tout ça est de surtaxer ces logements dans les communes où le marché immobilier est saturé afin de dissuader les propriétaires de résidences secondaires d'occuper tout le parc immobilier et laisser plus de résidences principales vacantes.
Mais donc, ça, c'est la loi nationale.
Oui, mais il faut changer l'objectif.
Mais oui, mais je ne veux pas changer l'objet de la loi, monsieur.
Pas l'objet de la loi.
J'ai pas ce pouvoir.
Mais moi, je
donne les raisons, les vraies raisons.
Oui,
excusez-moi de les donner, d'être honnête.
Mais c'est ce que je dis. Il aurait fallu les écrire en disant
C'est l'esprit de la loi, monsieur. Je ne vais pas changer l'esprit de la loi.
En commission, on nous aurait dit, par exemple, ce produit-là, on va en faire ci, on va en faire ça. On n'aurait même pas réagi.
Bon, eh bien voilà, alors ne réagissez pas.
Donc ça serait bien de mettre...
D'accord, ok. C'est parfait, monsieur Figueras. Merci de ces précisions. Y en a-t-il d'autres, des remarques ?
Oui, je souhaiterais connaître le nom des ensembles immobiliers, s'il vous plaît, qui vont profiter...
Je les ai pas. Alors, il y en a un sur le Mall. Il n'y a pas le directeur de l'Office du tourisme, il le sait. Et un sur le quai Saint-Martin. Je vous les donnerai, madame. Vous avez raison. Franchement, on y est dessus, là. Mon but, c'est de mettre des bougainvilliers, vous voyez, de faire des belles choses, de repeindre en blanc s'il le faut. On va faire de belles choses parce que ça le mérite. Hein, voilà. Et on va valoriser ces résidences secondaires. Bien, il n'y a pas d'autres remarques donc qui est contre cette délibération, qui s'abstient. Vous abstenez. Donc elle est adoptée. Monsieur Villa pour la question 8.
Merci Monsieur le maire. Bonjour à tous et à toutes. Donc la présente délibération a pour objet de procéder au vote de subvention pour les associations locales GSA Capretro, Tennis Paddle Cap d'Agde pour la création d'une section tennis fauteuil et une subvention de fonctionnement Agde Tennis de table. Il est donc proposé au conseil municipal une subvention pour un total de 17 567,79 euros.
Merci Thierry. Y a-t-il des remarques là-dessus ? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Monsieur Glomont, la suivante.
Merci Monsieur le maire. C'est une demande de financement. Dans le cadre des travaux de réaménagement de l'avenue de Vias, engagée prochainement, la ville souhaite procéder aux travaux d'enfouissement des réseaux d'électricité, d'éclairage public et de télécommunications sur la partie de cette avenue. Pour ce faire, la commune a sollicité Héro Énergie pour que ces travaux puissent faire l'objet d'un financement de la part de ce syndicat. Le montant total de l'opération d'enfouissement a été estimé par Héro Énergie à hauteur de 164 757 euros TTC et réparti de la manière suivante. Travaux d'électricité 117 092, travaux d'éclairage public 20 830, travaux de télécommunication 26 835. Le financement de l'opération est envisagé de la manière suivante. Financement d'Héro Énergie pour la réalisation des travaux d'électricité 49 539, récupération de la TVA à hauteur de 18 014, les dépenses prévisionnées pour la collectivité s'élèvent à hauteur de 97 204 euros. Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur le projet de convention pour la réalisation des travaux d'enfouissement, d'accepter le plan de financement et d'autoriser Monsieur le maire ou son adjoint délégué à signer cette dite convention.
Merci Rémi. Y a-t-il des remarques là-dessus ? Sinon, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc c'est adopté. Je crois que c'est à Monsieur Bentajou, les quatre questions suivantes.
Merci Monsieur le maire. Alors, c'est la question 11. Il s'agit de l'acquisition de la parcelle MZ200, chemin de la Cosse à Notre-Dame, appartenant à Madame Boutet. Sur la superficie est de 119 mètres carrés et le prix d'achat est de 714 euros.
Très bien. Là-dessus, des remarques ? Sinon, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, adopté. La suivante.
Il s'agit de l'acquisition de la parcelle LS130, lieu-dit Plot, à Madame Ravaille. Cette parcelle est en limite de la piscine. Alors, il y a 2410 mètres carrés pour 14 460 euros.
Voilà. D'ailleurs, qui nous servira à terme pour le parc, le parc méditerranéen que l'on veut faire là. Très bien. Là-dessus, des remarques. Sinon, qui est contre, qui s'abstient. Donc, adopté la suivante.
C'est la question 13. Il s'agit de la cession des lots 3 et 4 de l'immeuble en copropriété, section LI94, au profit de Madame Lionti, située 35 rue de l'Amour, dont elle est déjà propriétaire de deux locaux, situés de part et d'autre des lots communaux. Alors, le prix de vente est de 30 000 euros.
Très bien, là-dessus, des remarques, sinon qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La dernière pour vous, Monsieur Mentajou.
Il s'agit, dans le cadre de la réhabilitation de l'îlot Brescou, du déclassement et de la cession à la société Proméo des immeubles suivants. Section LE, le numéro 130, lot 2 et 3, de 133 mètres carrés. Le 131, le lot 1 à 3, de 274 mètres carrés. Le 132 de 910 mètres carrés, le 172 de 33 mètres carrés, le 173 de 125 mètres carrés, le 174 de 395 mètres carrés, enfin le 175 de 27 mètres carrés. L'évaluation de France Domaine est de 1 413 475 euros. La vente est de 800 000 euros. Alors, il est précisé que les estimations de France Domaine sont d'une valeur supérieure et que la différence avec le prix de vente sera comptabilisée pour la part qui relève des logements sociaux comme dépenses déductibles sur le montant du prélèvement sur les ressources fiscales conformément aux dispositions de l'article L302 du Code de la construction de l'habitat.
Merci, M. Bentajou. Des remarques là-dessus ? M. Nadal ?
Merci. Les remarques que je vais faire seront valables pour les questions 14, 15, 16 et 17 et dont notre vote sera identique pour les questions 14, 15, 16 et 17. Donc, ces délibérations, celles que vous venez de présenter et les trois qui vont suivre, autorisent le versement de subventions à divers opérateurs fonciers et indiquent que le montant de ces subventions viendra en déduction des pénalités dues au titre de la loi SRU. Concernant la délibération 14, le montant déductible, et donc vous venez de le dire, et la différence entre France Domaine et ce que vous vendez, donc on n'avait pas le montant de France Domaine, vous venez de nous le dire, là, 1 million, vous avez dit, excusez-moi, tu as dit combien, 1 million pour France Domaine ?
1 million 413 475 euros.
413
000 475 euros.
475, voilà. Je n'avais pas vu. Ensuite, pour la délibération 15, le montant de subvention de logement à aéro-logement est de 350 000 euros. Pour la 16, sur plusieurs années d'exercice à PM2B, c'est 2 440. Et pour la question 17, le total versé au promoteur Proméo sur plusieurs années sera de 700 000 euros.
Oui, juste, Monsieur Nadal, oui. Vous anticipez les questions d'après. Oui. Le public n'est pas censé comprendre, donc il faudra peut-être qu'on explique.
Ma remarque sera globale pour les quatre.
D'accord, mais il faudra qu'on explique un peu tous ces programmes.
Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'argent public, qui est mis en jeu, puisque là, on est quasiment à plus de 3 millions d'euros, quand même, entre tout ça. Et notre question, c'est que nous ne savons pas si les justificatifs financiers concernant l'équilibre de toutes ces opérations ont été ou seront fournis. Et on est en droit de s'interroger sur la légitimité de ces versements. Au final, le fait de devoir verser des pénalités au titre de la loi SRU apparaît quasiment comme un droit de tirage des divers opérateurs sur le budget de la ville. En outre, nous aimerions connaître le total des déductions auxquelles la ville pourra prétendre au titre du versement SRU en 2024. En fait, la remarque se faire pour ces quatre questions, c'est que les sommes investies sont importantes et est-ce qu'on aura à un certain moment un résultat financier des promoteurs sur ces différentes promotions pour savoir si l'argent quand même qui a été donné a été de manière bien utilisée et n'a pas servi uniquement au bénéfice des différents promoteurs. Parce que dès l'instant où on sait qu'il y a tant de pénalités SRU, finalement, comme je le disais précédemment, c'est un droit de tirage, on se dit on peut aller jusqu'à temps. Voilà. Merci.
Alors, la façon dont vous présentez les choses à différents promoteurs, je rappelle au public d'abord que ce sont des opérations pour la rénovation du cœur de ville. D'accord ? Principalement. Il y en a une, c'est pour aéro-logement, c'est pour faire des logements pour handicapés. Je le dis quand même, puisque vous avez anticipé sur les questions d'après. Donc de dire juste c'est donner de l'argent à des promoteurs, c'est bien sûr encore une manière un peu biaisée de présenter les choses. Je rappelle que dans ce cadre-là, c'est l'ANRU qui nous permet de faire ça et que c'est l'État qui verse le plus à justement ceux, j'ai envie de dire, qui descendent à la mine, hein, en quelque sorte, pour aller notamment sur le quartier de Brescou, là, donc rénover complètement cet îlot. Il y a eu 7 îlots, Monsieur Perea le sait bien, 7 îlots qui ont été déterminés dans le cadre de l'ANRU, qui a nécessité un gros travail, un énorme travail, monsieur Nadal, et qui d'ailleurs nous fait avoir aussi des subventions pour refaire la promenade, que nous sommes en train de refaire actuellement, ainsi que toutes les rues adjacentes. Et donc il y a eu 7 îlots qui ont été déterminés par les services de l'État, hein, et que l'agglomération, et vous le savez, parce que tous ces tableaux ont été fournis dans le cadre des concessions que nous avons passées, c'est l'agglomération qui les passe dans le cadre de sa compétence sur la politique de la ville. Vous êtes conseiller d'agglomération, on n'a jamais rien caché, tout ça est parfaitement transparent. Ces tableaux sont tenus justement par les aménageurs qui ont soumissionné dans le cadre de ces concessions et qui nous fournissent des comptes parfaitement clairs et transparents. Voilà. Et dans lesquels, en effet, la ville, et c'est la seule qui peut y prétendre, parce que l'agglomération n'y prétend pas, ni l'État, la ville donc donne une somme qui sera remboursée dans le cadre des pénalités que nous payons. Voilà, puisque vous le savez, la ville, pour ne pas trop faire de logements sociaux, préfère payer 1 million d'euros de pénalités par an. Donc cet argent, nous le récupérerons, et donc c'est pas un droit de tirage, c'est fait dans le cadre d'un plan qui est parfaitement vérifié par les services de l'État, par la comptabilité publique, dans le cadre d'un appel à projet, et que l'agglomération maîtrise très bien. Voilà. Et nous sommes même, je dirais, heureux d'avoir des gens qui ont répondu, parce que dans ces îlots-là, il y en aura d'autres qui vont passer, il y a quand même l'îlot de Notre-Dame, hein, où il y a Léa actuellement, nous avons l'îlot de la rue de l'Amour et l'îlot Théris, bon, où il n'y a pas grand monde qui jusqu'alors voulait se risquer à investir, et il y a l'îlot Bresroux. Voilà. Et relogement, excusez-moi de le rappeler, on le dira tout à l'heure, c'est pour faire des logements pour handicapés en lieu et place de l'ancienne gendarmerie. Voilà. Donc aujourd'hui, nous venons aider à l'équilibre de ces opérations et non pas pour faire, pas du tout pour faire des bénéfices aux promoteurs comme vous le présentez, c'est vraiment pour aider à équilibrer ces opérations et pour changer complètement la face du cœur de ville, principalement. Bon, ce à quoi nous nous sommes engagés, je le rappelle quand même, à l'occasion de la dernière élection, le cœur de ville est notre priorité, et donc on ne peut pas refaire que des espaces publics, il y a aussi des quartiers entiers qui vont être refaits, et je vous assure que ça va bouger. Voilà. Donc à partir du moment où on a justement des investisseurs qui se sont mouillés, il est normal que nous les accompagnions tel que la loi le prévoit et dans un cadre tout à fait transparent. Et donc c'est vrai que l'ensemble des sommes dont vous avez fait l'addition, très bien, mais nous serons restitués à travers la pénalité. Voilà, et c'est sur 6 ans, je le rappelle, ces sommes sont versées sur les 6 années, voilà, que vont durer ces différents chantiers en fonction de leur démarrage. Voilà, je tiens à replacer les choses parce que c'est plutôt très positif pour la ville d'Agde, d'autant qu'à la sortie, nous aurons aussi des services, hein, notamment des médecins. Voilà, on espère avoir aussi faire revenir des médecins en centre-ville, des commerces de proximité, des résidences seniors sociales pour les personnes âgées. Voilà, donc on va véritablement et d'ailleurs, Monsieur Perret le sait, actuellement, il y a 400 logements qui sont en train d'être refaits sur le cœur de ville. Donc, on passe à la surmultiplier. Et tous ces projets-là vont accompagner la renaissance du cœur de ville qui, quand même, voilà, passe par des opérations très lourdes, j'en conviens. Hein, mais bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. On va à fond sur tous ces dossiers parce que l'État nous accompagne et parce que nous avons la chance qu'enfin l'État nous accompagne sur la rénovation du cœur de ville, qui par ailleurs, on le sait très bien, Monsieur Nadal, coûte plus cher qu'ailleurs. C'est plus cher de retaper un quartier en cœur de ville que de construire du neuf sur un terrain nu. Hein, d'abord parce qu'il y a les bâtiments de France, je le disais, qui surveillent tout. On a l'archéologie qui surveille également dès qu'on creuse un trou. Voilà, donc tout ça est parfaitement capé. Et donc notre désir, c'est surtout pas de freiner ces opérations. C'est pour ça qu'on vous propose de voter toutes ces délibérations qui, entre parenthèses, sont prévues depuis belle lurette. Hein. On n'a rien caché à personne. Depuis le départ, on sait que ces opérations nécessiteront des équilibres de l'État, je le dis. Je crois que l'État met de sa poche sur toutes ces opérations-là, Monsieur Perret, je crois plus de 10 millions d'euros. Hein, je l'annonce quand même. Hein, c'est eux qui mettent quand même le plus. Donc plus de 10 millions d'euros. L'agglomération, mais à peu près comme la ville, hein, je crois 1,5 million, un truc comme ça. Voilà, enfin, de mémoire, hein, vous me direz si je me trompe. Voilà. Donc aujourd'hui, on est plutôt heureux, Monsieur Nadal, que ces opérations vont enfin voir le jour. Voilà, hein, je le dis comme ça. Bien, d'autant que c'était Monsieur Frey qui devait prendre les questions qui suivent, parce que là c'était Monsieur Bentajou, c'était juste sur un récapitulatif de propriétaires. Voilà. Donc je termine sur la question de Monsieur Bentajou, qui est la question 14. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Monsieur Frey, donc la question 15.
Alors, merci Monsieur le maire. En effet, les questions 15, 16 et 17 sont, comme vous l'avez dit Monsieur Nadal, de même nature. Il s'agit de demander au conseil municipal d'approuver l'attribution de subventions à différents porteurs de projets. Alors, porteurs de projets, soit comme Monsieur le maire vient de l'indiquer, à vocation médico-sociale. C'est le cas pour Hérault Logement et l'association AVH qui est son partenaire, soit pour des projets situés dans le cœur de ville d'Agde. Les participations financières de la collectivité qui vous est proposée d'autoriser sont justifiées, c'est important de le répéter, sont justifiées par la nécessité d'équilibrer des opérations structurellement déficitaires et qui, par conséquent, ne pourraient pas être réalisées. Elle ne pourrait pas être réalisée sans l'intervention de la puissance publique. Donc le choix qui nous est offert, c'est soit de recourir à un dispositif qui, d'ailleurs, soit dit en passant, ne coûtera pas d'argent à la collectivité, puisque ça sera prélevé sur la pénalité que, de toute façon, nous devons acquitter en direction de l'État, soit nous faisons un autre choix et qui ne nous fera faire aucune économie, qui consistera à dire « nous ne nous mêlons pas de ce type d'opération », mais elle ne se ferait pas. Donc le choix qui est le nôtre et qui n'engage absolument pas les finances de la commune est d'être pragmatique et ambitieux pour notre politique communale, notamment en direction du centre-ville. Donc il est la volonté de la municipalité que d'une part un équipement soit installé à Agde dans le but d'offrir une réponse médico-sociale à une problématique existante liée au handicap, et que d'autre part, des opérations de réaménagement très importantes menées à l'échelle d'îlots entiers puissent, et ça sera une première à Agde, à l'échelle d'îlots entiers, puissent accompagner les travaux de réhabilitation de la promenade et de nombreux espaces publics du cœur de ville d'Agde. Les subventions qui vous est proposées d'octroyer permettront donc de rendre possible ces opérations qui s'inscrivent toutes dans le cadre de la politique voulue par la municipalité. Et j'indique aussi que, comme je viens de l'indiquer, que l'intégralité du montant de ces aides sera déduite du prélèvement effectué au titre de la loi SRU et que par conséquent, les délibérations qui vous sont présentées aujourd'hui n'engendreront à l'échelle du plan pluriannuel de financement aucune augmentation du niveau de nos dépenses. Aucune. Donc la première délibération concerne la création par Hérault Logement de 13 logements sociaux et d'une résidence pour adultes en situation de handicap. L'opération se situera sur le site de l'ancienne gendarmerie et prévoit la reconversion des logements affectés hier aux gendarmes en logements sociaux. Donc cette partie du projet ne générera aucune construction nouvelle. Et il vous est proposé d'attribuer une subvention de 350 000 euros intégralement déductible de la pénalité due par la ville d'Agde au titre de la loi SRU. Voilà donc pour la question 15, et j'ai dit en préalable ce que je pensais de du dispositif qui a été retenu et qui vous est proposé ce soir. La 16. La deuxième délibération concerne la réhabilitation de deux îlots immobiliers situés en cœur de ville d'Agde, rue de l'Amour et rue Théris. Il s'agit d'opérations qui sont complexes, vous vous en doutez, j'imagine, dont le porteur retenu par la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée à l'issue d'une procédure d'appel à projet qui faisait mention de tous les éléments financiers. Tous les candidats qui ont répondu dans le cadre de l'appel à projet ont manifesté leur intérêt en présentant et un projet architectural et le montage financier de leur opération. Donc la société retenue est la société PM2B. Ce dernier est chargé de réhabiliter 33 logements anciens et d'aménager les espaces publics. Il vous est proposé d'attribuer une subvention de 700 000 euros relative à la réhabilitation des logements et une subvention de 740 000 euros relative à l'aménagement des espaces publics. Et là encore, l'intégralité du montant de ces aides sera déduite du prélèvement effectué au titre de la loi SRU. Je veux indiquer, ce que je n'ai pas fait jusqu'à présent, que c'est aides seront échelonnées sur une période de 3 ans pour chacune. Et la question 17, la troisième délibération concerne la réhabilitation de l'îlot Brescou qui est situé en limite de la promenade en cœur de ville d'Agde. Le montant de la subvention à attribuer au porteur du projet retenu a été fixé au terme d'une délibération que nous avons déjà votée, c'était le 25 juillet de cette année. Il reste inchangé. L'objet de la délibération est là, de ce soir, et de modifier le calendrier puisque le démarrage du chantier est prochain et que par conséquent, il faut engager, enfin, le porteur du projet devra engager les premières dépenses.
Voilà. Très bien. Et au passage, quand même, on peut le dire, ça crée un peu d'emplois. Hein, tout ça, c'est pas mal aussi. Voilà.
Chaque appartement construit génère 2 emplois voilà. pendant 2 ans.
Non, je le dis parce qu'on n'en parle jamais, mais bon, c'est important aussi. Bien, y a-t-il des remarques alors sur... Bon, Monsieur Nadal a fait sa remarque, Monsieur Aziz.
Oui, très rapidement, donc au risque de vous faire répéter, pardon, on est bien d'accord que les subventions attribuées pluriannuellement vont venir se compenser directement par la pénalité SRU à l'euro près, si j'ose dire. Il n'y aura pas de surcoût pour la ville.
Non, aucun. Non, c'est ça.
Donc en gros, vous nous dites 3 ans.
À N plus 2.
Ouais, voilà, vous nous dites 3 ans, donc en gros, il y a une enveloppe, si on peut appeler ça une enveloppe, de 3 millions. Mmh. Qu'on va distribuer en 3 ans pour effacer en fait la.
On va pas peut-être effacer complètement. Il faut voir après sur
voilà,
le calcul.
Mais on dépassera pas, c'est ce qui.
Oui, oui, non, on ne dépassera pas, non, ça non.
Ok.
Bien, là-dessus, oui. Ah, attendez.
La remarque, elle n'était pas en fait sur la pertinence de faire ou non
le processus
des logements pour handicapés ou des. Bien sûr, tout le monde est pour ce genre de choses-là. Notre remarque, elle était surtout comment on peut, dès l'instant où la ville donne une somme, différente selon les différents promoteurs, comment la ville, quand même, elle peut avoir un rétro-contrôle. Vous dites que ce sont des
je vous l'expliquer là, monsieur Nadal.
Des opérations structurellement déficitaires, ok. Donc le promoteur, quel qu'il soit, va donc identifier une somme apparemment pour qu'il puisse équilibrer son projet. Et derrière, quel contrôle vous aurez a posteriori? Est-ce qu'il y aura d'abord un contrôle a posteriori pour savoir si la somme
que de nous,
monsieur que vous
Nadal,
avez demandé
de l'État.
Était...
Il y a des tableaux qui sont fournis d'abord parce que l'achat du foncier, on sait le prix qu'ils ont payé. Là, on est d'accord sur l'achat du foncier. Ensuite, il y a le coût des travaux et donc on sait exactement combien ça coûte. Voilà. Et donc les tableaux sont fournis en amont et on vérifiera à la fin, bien sûr.
Mais monsieur Nadal, ouais. C'est le législateur. Oui. C'est le législateur qui a prévu la déductibilité de ces dépenses.
Oui, non, mais ça, il a compris.
Pour permettre d'accompagner des projets. Ouais. Et donc, il prévoit aussi
Monsieur
les
Nadal
conditions.
Est inquiet sur le contrôle, si j'ai bien compris. Ouais. Voilà. C'est sur le contrôle de savoir.
De logement.
Donc, il y aura un contrôle. Oui, Madame Varezano.
Oui, j'ai bien compris que c'était déductible. Ce n'est pas le souci. Mais je souhaiterais savoir comment est déterminé le montant des subventions.
On détermine, alors il y a des pourcentages, comment c'est déterminé exactement, j'ai plus le calcul en tête, il y a l'État qui fournit un pourcentage de la somme, l'agglomération et la ville. Alors comment c'est déterminé, c'est légal, c'est législatif.
J'imagine, ce serait intéressant de le connaître.
Oui, mais je vous le donnerai.
Et je souhaiterais aussi...
Je n'ai pas toutes les réponses de tout de suite.
Ça va, alors, dommage. Comment le déficit...
Ah, monsieur Perret, peut-être il a la réponse.
Oui, pour rassurer les différentes personnes, ce sont des opérations qui sont financées par l'État. C'est dire qu'elles sont extrêmement surveillées et extrêmement suivies. Les promoteurs ont des réunions 3 ou 4 par an qui sont organisées par la DDTM, sur lesquelles, ils rendent des comptes à la fois financiers mais aussi techniques. Et c'est extrêmement rigoureux pour eux. Je vois Proméo ici, ils ont des petits problèmes de chantier.
Comment c'est dispatché, monsieur Perra?
Donc, c'est dispatché parce que quand ils déposent leur dossier, ils travaillent avec la DDTM notamment, qui oriente. Est-ce qu'il manque, puisque, monsieur le maire, vous l'avez rappelé, ce sont des opérations qui sont déficitaires. C'est pas des
Oui, mais bon,
des
la question de Madame Varezano, c'était comment c'est dispatché.
Et donc, nous regardons ce qui manque. Et quand nous avons choisi les différents dossiers, nous avons pris à chaque fois les candidats qui nous demandaient le moins de financement
le moins
pour la
possible,
ville et que ça puisse être
rentré
dans le cadre
la répartition.
De la loi
SRU. La deuxième question. Merci, François. Voilà.
C'était concernant la délibération numéro 15, notamment, comment le déficit invoqué de cette opération a-t-il été justifié, justement?
Eh bien ça, par l'achat du foncier et les travaux. Voilà, et donc il y a un calcul qui est fait et le déficit est constaté. Voilà. Et sur la revente après, parce que la revente de ces biens est pas facile, vous en conviendrez. On ne vend pas un bien en centre-ville comme on le vend au Cap d'Agde. Voilà. Donc il y a un prix du marché à la sortie. Voilà.
En fait, ces projets ont fait l'objet de candidatures des personnes retenues, des sociétés retenues et d'autres qui n'ont pas été retenues, qui a été lancée par la communauté d'agglomération Héro-Méditerranée. Toutes ces candidatures faisaient mention d'un montage financier, comme j'indiquais tout à l'heure, en plus de la partie architecturale. Donc, il a été présenté, en fait, le montage avec le déficit prévisionnel.
Mais peut-être que Madame Varezano pourrait prendre un café avec Monsieur Perea, qui lui montrera les tableaux, les trucs, comment c'est fait. Voilà, c'est très technique. Hein.
Avec plaisir.
J'ai un planning chargé, donc par
oui,
mail,
bon,
vous m'envoyez
monsieur,
tout, toutes les questions.
Monsieur Perea pourra venir boire un café, chez vous.
Ah, mais c'est pas que.
On ne va pas abuser de votre hospitalité, mais bon, quand même. Hein. Bien, y a-t-il d'autres questions? Donc sur la question, je rappelle, 15, 16 et 17. Voilà, sinon sur la 15, qui est contre? qui est contre sur la 15, qui s'abstient. Donc elle est adoptée sur la 16, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée sur la 17, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Monsieur Frey, pour la question 18.
Alors, c'est une question d'ordre juridique. Donc j'appelle 45 secondes d'attention de votre part, parce que c'est... Lors de la séance publique du 24 septembre 2019... Certains s'en rappellent, le conseil municipal a délibéré afin de retirer la délibération qui datait du 28 juin 2016 et a acté ainsi le maintien du site appelé le Petit Bois dans sa vocation d'espace public piétonnier et de promenade. C'était un acte fort que le conseil municipal a décidé de proposer et d'entériner. La délibération a été l'objet de contentieux, comme cela a été prévisible. Le 21 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête du requérant. Cependant, la cour administrative d'appel de Toulouse y a fait droit en annulant la délibération du 24 septembre 2019, qui avait pour objet de retirer la délibération du 18 juin 2016. La Cour a considéré que la ville d'Agde ne pouvait pas retirer la délibération, mais seulement l'abroger, autrement dit, la priver d'effet juridique. Donc, la désaffectation, j'ai envie de dire tout ça pour ça, la désaffectation et le déclassement des parcelles en question n'étant pas intervenus, il vous est proposé d'abroger la délibération du 28 juin 2016. Et donc, je profite de cette occasion, c'est plutôt un plaisir partagé pour nous de le faire, de confirmer et de rappeler la volonté de la municipalité de sanctuariser ces parcelles communales et de leur conserver la fonction d'espace public paysager et de promenade.
Voilà, en gros, tout va bien. Voilà, y a-t-il des remarques là-dessus ? Allez, monsieur Nadal, allez-y.
Donc, après bien des errances et des revirements et un imbroglio juridique que vous venez de décrire, vous annulez aujourd'hui la délibération du 28 juin 2016. Tout serait donc terminé et les Agatois ne seront donc pas privés de l'accès au Petit Bois, cet espace naturel, vous l'avez rappelé, qui est magnifique, au milieu de l'île des loisirs et du Cap d'Agde. Pour autant, monsieur le maire, vous avez signé en mars 2019 un permis de construire, actuellement purgé de tout recours sur ce terrain. Est-ce que nous sommes, avec ce permis de construire, devant un nouveau contentieux ? Est-ce que ce soir, vous pouvez nous dire, nous certifier que tout cela est terminé, qu'on ne parlera plus jamais de ce Petit Bois, et que l'affaire est close, et que la ville ne subira pas ultérieurement des pénalités financières ?
En tous les cas, pour l'instant, il n'y en a pas sur le permis de construire. En tous les cas, il ne se construira jamais rien, puisqu'on réaffirme notre volonté qu'il ne se construise rien. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Très bien. D'autres remarques là-dessus ? Donc, si donc il est contre cette délibération, qui s'abstient donc adoptée. Monsieur Toureau, pour la question 19.
Merci, monsieur le maire. Je serai bref. Il s'agit du rapport d'observation définitif de la Chambre régionale des comptes qui a procédé à un examen des comptes de la gestion de la Sodéal pour les années 2017 à 2022. Son rapport d'observation définitive ayant été adressé à la ville, il doit être communiqué pour information à l'organe délibérant qui en prendra acte. Conformément donc à la réglementation, le rapport ainsi que la réponse de la ville sont adressés à chaque conseiller municipal avec l'ordre du jour.
Très bien. Sur ce rapport dont nous devons prendre acte, y a-t-il des remarques ? Madame Varezzano et monsieur Nadal.
Oui, ce rapport est accablant. Je vais faire court tant il y aurait de choses à dire. Même l'objet social n'est pas adapté. Je relèverai le rôle confus entre le PDG et le directeur général délégué. Directeur général délégué qui a perçu des salaires exorbitants en hausse de 50% entre 2018 et 2021, passant de 115 000 euros en 2018 à 172 000 euros en 2021. Je relève également le manquement de la Sodéal à ses obligations de réunir le comité local des usagers du port au moins une fois par an. Comité réuni à l'initiative du maire et qui doit avoir connaissance du budget du port. Sur la période 2017-2022, ce comité n'a été réuni qu'une fois en 2017 et cette carence est d'autant plus préjudiciable qu'elle intervient au cours d'une période durant laquelle la concession a été renouvelée pour 20 ans. Le rapport met également en évidence une gestion peu dynamique et un potentiel inexploité. Mais le point le plus inquiétant, c'est la vétusté des installations portuaires, résultat d'un sous-investissement qui a participé à la dégradation de certaines parties du port. le diagnostic met en évidence deux désordres majeurs, notamment la dangerosité du quai d'accueil que le diagnostic définit en « limite de ruine » et précise même que l'accès piéton et le stationnement de bateaux devraient être interdits. Mais également l'état critique du quai de la Trirème, pour lequel encore on préconise l'interdiction de toute circulation piétonne et l'interdiction de stationnement des bateaux. Je crois d'ailleurs que la réfection des quais était une promesse de votre programme de campagne depuis plusieurs mandats. En conclusion, nous n'avons pas de gestion, pas d'information, pas d'investissement, pas de travaux, mais par contre des belles rémunérations pour les dirigeants et des augmentations pour les usagers, plaisanciers et commerçants. Aviez-vous connaissance de ces dysfonctionnements et de cette gestion calamiteuse? Et sinon, comment la ville d'Agde, actionnaire à 73,3% des parts, peut-elle l'ignorer si ce n'est sciemment? Devant cette situation d'urgence, avez-vous un plan d'intervention d'urgence?
Monsieur Nadal.
Merci, monsieur le maire. Ce rapport que nous avons lu, enfin ceux qui ont eu la précipité de le lire, nous a tous vraiment étonnés. Je ne sais pas si le mot est pas un peu faible. Ce rapport de la Chambre régionale des comptes d'Occitanie sur l'activité de la Sodéal pour les années donc 2017 à 2022 est calamiteux et sidérant. Il met directement en cause votre méthode de gestion en tant que maire de la ville et président d'Aglo, qui, je le répète, sont les principaux actionnaires donc de la Sodéal avec 80%, donc vous avez dit 73% des parts étant à la ville. En substance, ce rapport contient trois parties titrées. Ainsi, la première partie, une gouvernance à redéfinir, une gestion peu dynamique des activités de la société en deuxième partie, et dernièrement, une situation financière fragilisée par les décisions de gestion. Mais plus que les mots, voici quelques extraits tirés de ce rapport. Je tiens à le préciser, je n'ai rajouté aucun mot, et tout ce que je vais vous dire là, ce sont des mots qui sont cités dans ce rapport de la Chambre régionale des comptes. D'ailleurs, j'invite tous les Agatois qui le souhaitent à consulter ce rapport, et je pense qu'il sera sur le site de la ville. Non ? Vous savez pas s'il sort d'une ville. On souhaiterait en tout cas qu'il soit sur le site de la ville. En tout cas, nous le mettrons sur notre site à nous. Ils pourront ainsi vérifier mes dires et seront effarés des dérives et des négligences qu'il contient. Sur le pilotage et la gouvernance, j'ouvre les guillemets. La gouvernance se caractérise, dit la Chambre régionale, par un déficit de contrôle des actionnaires. Les actionnaires, c'est la ville principalement et l'agglo. Alors que le niveau d'information produit par la Sodéal à travers les rapports d'activité apparaît peu satisfaisant, les actionnaires n'émettent aucune observation et désertent les instances de direction. Les représentants des collectivités actionnaires n'ont produit aucun rapport participant à l'information des assemblées délibérantes de la commune et de l'agglo. La non-production de ces rapports irréguliers ne permet pas d'assurer la transparence dans la gestion de la Sodéal. De plus, l'Assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an, tel qu'il est prévu dans les dispositions légales. Il apparaît que à ces réunions, il y a une très faible assistance et malgré les convocations régulières établies. La présence des actionnaires étant souvent aux alentours de 27% et à deux reprises, le PDG s'est retrouvé le seul actionnaire présent. Dans les faits, les assemblées générales ne donnent lieu à aucun échange et les durées en moyenne sont de 45 minutes. Je ferme les guillemets. Donc tout ce que je vous dis là, vous pourrez le vérifier, c'est écrit dans le rapport. Sur les conditions d'emploi des cadres dirigeants. Alors, ils font trois remarques. Premièrement, sur le directeur général délégué, qu'on appelle communément le directeur. Sur la période, la rémunération brute versée a augmenté fortement, vous l'avez dit, 50%, plus 50% entre 2018 et 2021. On vous a dit les chiffres. On est passé de 115 436 à 172 643 en 2021, sans compter, bien sûr, les avantages en nature, alors que parallèlement, les objectifs ne sont pas atteints. Oui, madame, messieurs, vous avez bien entendu, 172 643, ce qui fait plus de 14 000 euros par mois. On ne peut plus parler de salaire du ministre, puisque le ministre, ça touche moins que ça. Hein, ça touche 10 600 euros. Là, on est à 14 000 euros par mois. Les salaires augmentent alors que les objectifs, je vous le répète, ne sont pas atteints. La Cour poursuit, je cite toujours, « L'augmentation de la rémunération globale du directeur général délégué, décidée par le seul président, intervient dans un contexte réitéré de non-réalisation des objectifs fixés. » Ça marche mal, mais on augmente. La Chambre relève que la rémunération excède largement le coefficient plancher des directeurs généraux. Bon, il cite un chiffre, le coefficient est passé de 675 à 951 en 5 ans, c'est-à-dire qu'il faut en 5 ans, il y a eu une valorisation qu'il faut généralement sur une carrière pour avoir ce genre de choses-là. Il bénéficie également, il parle du directeur général, il bénéficie également d'une mesure dérogatoire quand on reporte ses séjours de congé. Et ces séjours de congé n'ont pas été accordés à tous les agents de la société. C'est-à-dire qu'ils refusent aux autres, mais à lui, il se l'accorde. Ces jours reportés ont déjà donné droit en 2021 à 36 293 euros. Et lui donne droit, et ça, la société l'a validé elle-même, à une rémunération supplémentaire de 68 373 euros. Donc, en plus de son salaire, ces chiffres, enfin, quand on les lit et quand on voit le rapport, c'est vraiment ahurissant. La Chambre conclut sur ce point de la manière suivante. Le report des congés associé à un paiement en cours de contrat de séjour de congé est totalement irrégulier. Cette irrégularité, dit la Chambre, est d'ailleurs admise par le président de la SEM et par le maire d'Agde. Le conseil d'administration avait seule compétence pour fixer la rémunération et lui accorder l'ensemble des avantages décrits. Véhicule de fonction, report des jours de congé, prime annuelle, augmentation. Et dans le cas présent, la Cour écrit... La Chambre régionale des comptes écrit « Le président a excédé ses pouvoirs ». Dans un deuxième temps, il parle du directeur administratif et financier, ce qu'on appelle le DAF. La Chambre qualifie son recrutement d'atypique et les avantages octroyés d'inédits. Elle précise que, durant la période étudiée, trois directeurs administratifs se sont succédés. Les deux premiers étaient diplômés, expérimentés à ce poste, avec une rémunération mensuelle de 3 885 euros. Le troisième, celui qui a été recruté en 2019, sans qu'aucun cabinet de recrutement n'ait été sollicité, ni aucun entretien formalisé ne soit retracé, la société ne disposait même pas de son CV, écrit la Chambre. C'est le directeur général délégué qui lui a proposé le poste vacant, ayant eu au cours de leur carrière respective, des affectations communes. Et sa rémunération est portée à 5 296 euros. Donc les deux anciens étaient à 3 885, celui-là, il est à 5 296 après deux mois de son embauche, soit une augmentation de rémunération de 40% supérieure à celle de ses prédécesseurs. Ce monsieur dont a quitté la société en 2021, soit 2 ans et 3 mois d'activité, en présentant une demande de rupture conventionnelle avec une indemnité à la clé de 23 415 euros, très supérieure bien sûr au montant de l'indemnité légale qui lui avait été accordée. Il bénéficie aussi de la possibilité de report de ses congés, c'est-à-dire de la même dérogation que le directeur délégué s'était déjà accordé à lui-même. Il sera relevé que les précédents directeurs financiers n'avaient pas bénéficié de cette dérogation. La société lui a donc versé une indemnité supplémentaire de 16 832 euros. La Chambre conclut ainsi. Il a donc perçu une indemnité globale de 44 873 euros après seulement 27 mois d'activité, à l'issue d'une procédure de recrutement dont l'impartialité peut être interrogé à la lecture des exigences du poste comparé au profil du candidat et à ses liens avec le directeur général délégué. Il a bénéficié de conditions d'emploi favorables et pour partie irrégulières. Ainsi, l'ensemble de la procédure allant du recrutement à la rupture favorise le salarié sans préserver les intérêts de l'entreprise. Elle conclut pour le président directeur général et président du conseil d'administration qu'il a durant la même période, une augmentation salariale de 30%. Sur la gestion des activités portuaires, la Chambre insiste principalement sur deux points. Sur des dispositions de la nouvelle concession, j'ouvre les guillemets, ces nouvelles dispositions sont imprécises, notamment sur la fixation des tarifs à la charge des usagers. Aucune formule de revalorisation, ni même d'ailleurs de fixation initiale, ne figure dans le rapport. Et la Chambre dit « Ceci expose à un risque juridique majeur le contrat en cours », rappelant l'annulation de la convention par une cour d'appel sur la commune de Sète. Sur la vétusté des installations portuaires, elle met directement en cause, je cite à nouveau le rapport, « ce sous-investissement a participé à l'état de dégradation de certaines parties du port », citant notamment l'état critique du quai de la Trirème et la dangerosité du quai d'accueil à la limite de ruine. Et d'ailleurs, elle conseille de fermer, vous l'avez dit, l'accès du quai aux piétons et se pose des questions sur l'appontement des bateaux. La Chambre poursuit, la vétusté des installations est parfaitement connue de la Sodéal. Ces travaux ne sont pourtant pas précisément identifiés parmi les travaux imposés par la nouvelle concession. Sur la gestion des campings, puisque l'audit comportait également les campings, la Chambre parle, je cite, d'un défaut de pilotage, d'une gestion défaillante, lacunaire. Elle insiste sur plusieurs points. Le niveau de redevance a participé au déséquilibre structurel de l'exploitation et au vieillissement des équipements non renouvelés. La collectivité avait connaissance de ce défaut d'investissement pourtant prévu au contrat, mais bien que disposant contractuellement de moyens pour agir, elle a laissé la situation du délégataire et par voie de conséquence de ses campings se dégrader. Elle ajoute, durant 4 ans, les 2 campings, la CLAP et la Tamaricière, sont restés sans directeur ni directeur marketing. Durant cette période, le chiffre d'affaires a diminué de 23%. En n'ayant pas pourvu à leur remplacement, la direction de la Sodéal a mis en place les conditions conduisant à une baisse de la fréquentation et donc du chiffre d'affaires. Ce faisant, elle a contrevenu à ses obligations contractuelles et failli à son obligation de bonne gestion. C'est terrible ce qui est écrit là, parce que c'est la chronique d'une mort annoncée. Enfin, on l'avait dit dans les conseils précédents, mais bon. L'actionnaire principal que vous êtes ne s'en est pourtant pas ému, malgré nos différents rappels à l'ordre ici même, et pas plus tard qu'en début d'année. Ensuite, la Chambre poursuit, les rapports lacunaires, voire erronés, produit par la Sodéal, altère la qualité et le niveau d'information que le délégant est en droit d'attendre. La Chambre relève que si la commune n'avait pas disposé d'un niveau d'information lui permettant d'apprécier les conditions réelles d'exécution du contrat, elle ne sait toutefois pas, malgré les incohérences des données relevées, retourner vers le délégataire pour obtenir des compléments d'information. C'est-à-dire que rien n'allait, mais tout le monde s'en fout, quoi, dans cette affaire. On peut, une fois de plus, s'interroger sur les véritables motivations de la ville. Ne souhaite-t-elle pas la mort de cette activité pour la donner en concession au secteur privé? Et malheureusement, eh bien, c'est la suite qui a prouvé que c'était bien le cas, puisque les 2 sociétés ont été vendues. Le chiffre d'affaires avait baissé, l'activité était mauvaise, et eh bien, à ce moment-là, c'était plus facile de céder tout ça. De manière plus générale, la Chambre conclut par une situation financière fragilisée. Et cette situation est fragilisée, elle le précise, par des décisions de gestion, écrivant clairement que la question de l'équilibre d'exploitation au-delà de 2021 se pose dans un contexte renouvelé, avec recentrage de l'activité sur le port, conduit selon une nouvelle délégation imposant dorénavant 20 millions d'euros d'investissement, auxquels s'ajouteront bien sûr les travaux de sécurisation urgents. Je ferme les guillemets. Donc tout ce que je vous ai dit là, vous pourrez le retrouver si la ville met ce rapport sur son site dans ce que dit la Chambre des comptes. On se souvient des propos que vous avez tenus ici. Vous pourriez reprendre le refrain « Ma petite entreprise ne connaît pas la crise ». Et pourtant, ce rapport pitoyable ne peut que nous faire craindre un avenir funeste pour la Sodéal. Quelle responsabilité! À cet instant, monsieur le maire, je pense à tous les salariés de la Sodéal. Eux qui n'ont pas bénéficié des augmentations de salaire scandaleuses et disproportionnées, alors qu'ils sont tous les jours sur le terrain et font tourner la boutique, comme on dit, et qui, peut-être, actuellement, ont des craintes sur leur avenir. Les remarques faites par les sages sur le contrôle que vous auriez dû exercer sont assassines et vous concernent directement. On se demande bien pourquoi, comme le souligne la Chambre régionale des comptes, j'ouvre les guillemets, les travaux pourtant indispensables pour la sécurité est connue de la Sodéal comme de la mairie, ne sont pas identifiés dans la nouvelle concession. Inconscience politique coupable, cette dégradation des installations et donc de l'activité sont-elles voulues afin de transférer cette activité à bon compte à un gestionnaire privé, comme pour les campings? Ce soir, monsieur le maire, nous sommes tristes de voir ce magnifique outil qu'est la SODEAL se faire fustiger comme cela par le rapport accablant de la Chambre des comptes, qui explique très clairement que tout est la faute des instances dirigeantes dont vous êtes à la tête en tant que maire et président de l'agglo, et vous êtes, je le rappelle, l'actionnaire principal avec 80%, 73% pour la ville et le reste pour l'agglo. Nous sommes tristes de voir à quel point vous avez laissé se dégrader cet outil. D'abord les campings et maintenant le port, sans réagir. Malgré nos incessantes remarques et nos avertissements que nous avons pu faire lors des différents conseils municipaux. Nous sommes tristes également de voir le peu de considération que vous avez pour l'ensemble du personnel de cette société qui vont payer les pots cassés d'une politique décidément opposée à la nôtre. Monsieur le maire, ce soir, nous vous en vraiment prions parce que c'est vraiment un sujet important. Sortez de l'opacité, de l'entre-soi qui est votre marque de fabrique. Vous nous devez, même si cela vous est pénible, plus de transparence, plus de sérieux dans votre implication de la SODEAL. Il en va de la survie de cette société. Mais est-ce encore votre volonté?
On va peut-être laisser s'exprimer le président dans un premier temps, et ensuite je m'exprimerai.
Bien sûr, monsieur Nadal, effectivement, on ne peut pas dire que le rapport soit très glorieux, je vous le laisse dire bien volontiers. Toutefois, il ne faut pas quand même tromper les agatois et exagérer. D'une part, ce n'est pas la cour. Ce n'est donc pas un procès, ce n'est donc pas le jugement d'un tribunal. C'est bien la Chambre régionale des comptes. Le rôle de la Chambre régionale des comptes est de émettre des remarques, de faire des recommandations et des préconisations. Il est clair que concernant la gouvernance, ce rapport met en surbrillance des difficultés entre la fonction de président-directeur général que j'exerce et la fonction de directeur général, puisque la Chambre préconise que l'on qu'on éclaircisse ce point de savoir qui fait quoi. Donc ça, c'est clair, et nous aurons l'occasion de l'éclaircir. Concernant l'avenir de la SODEAL et de son personnel, écoutez, là, pour le coup, je ne peux pas être d'accord avec vous, puisque, d'une part, les salariés de la SODEAL bénéficient au même titre que les autres des conventions collectives de la Fédération française des ports de plaisance, qui sont certes avantageuses pour ces salariés. Ils ne sont en aucun cas en difficulté, ils ne sont en aucun cas menacés de perdre leur emploi. Tout simplement parce que, évidemment, la Chambre met en exergue quelques dysfonctionnements, des investissements effectivement qui n'ont pas été réalisés, et nous pouvons expliquer une partie des raisons pour lesquelles ça n'a pas été fait, en particulier les périodes de Covid, des périodes d'incertitude, et effectivement, par rapport à des stratégies globales menées, il était parfois pas indispensable de mener les investissements nécessaires alors que les campings ont changé de délégataire. Vous me permettrez aussi de vous reprendre lorsque vous dites que la ville a vendu les campings. Non, non et non. Les campings appartiennent toujours à la ville. C'est la SODEAL qui n'a plus été délégataire. Et ça, les agatois doivent le comprendre, le savoir. On ne peut pas les emmêler en disant « la ville a vendu les campings ». Ce n'est pas vrai. Les campings appartiennent toujours à la ville. Ça, c'est le premier point. Pour information globale, sur les 20 dernières années, 1500 campings ont fermé leurs portes. Sur les 1500 campings qui ont fermé leurs portes, 850 sont des campings municipaux. Les raisons sont simples. Je suis bien placé pour vous le dire. Quand on dirige un camping, c'est très souvent une affaire de famille. Tout le monde met la main à la pâte. Les journées sont longues. Lorsque ce soit en SEM, en régie ou autre, on doit faire tourner des campings municipaux. Toutes les heures de présence des salariés sont rémunérées. Les frais sont donc considérables. Et les campings municipaux ont beaucoup de mal à lutter contre des trusts aujourd'hui, des groupes comme Cibloo, comme Capfun, comme Yellow, qui investissent à coût de millions d'euros dans l'Europe entière et à tel point qu'ils rachètent tous les campings, y compris les plus petits. Donc les campings municipaux n'ont pas les capacités d'investissement que vous voudriez nous faire croire. D'autre part, concernant le recrutement du directeur de camping, effectivement, sachant que tout le monde sait bien que l'ancien directeur des campings est à votre droite. Et je n'aurai pas de mots pour lui, ni de réflexion particulière, excepté de rappeler que dans le cadre du compte du travail, dans le cadre de la gestion des entreprises, M. Nadal, on ne peut pas remplacer un directeur au pied levé tant qu'il est en arrêt maladie. Le directeur des campings concerné vous dira, dans le creux de l'oreille, combien de temps il est resté en arrêt maladie, et donc pendant ce temps, combien je n'ai pas pu recruter un nouveau directeur de camping. Et au moment où il aurait peut-être pu reprendre du service, la stratégie globale de la Sodéal, en accord avec la mairie, était de dire peut-être que, pour améliorer les futurs investissements sur les ports, et on va y venir, pour prioriser le port, la gestion, les quais, les investissements portuaires et les investissements sur les berges de l'Hérault et du centre nautique, il faut peut-être savoir se séparer de quelque chose que nous ne savons pas très bien faire, en particulier donc les campings. Voilà donc la raison des 4 ans d'absence de directeur de camping. Premier point. Concernant l'investissement des ports, effectivement, ils sont colossaux. Là aussi, nous devons prioriser entre les quais, la plaisance, les pontons, les pieux, la sécurisation de la zone technique, la mise en valeur de notre port et du centre nautique. Il y a des priorités. Un contrat global de performance a été présenté. C'est 2 ans de gestation. Je ne l'ai pas accepté. Parce que les investissements, une fois en plus, sont trop élevés pour le moment. Il a été aussi question, pendant la période Covid, de montrer aux créanciers la bonne trésorerie de l'entreprise, à défaut d'une très mauvaise gestion, comme vous semblez le dire. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que la mauvaise gestion, ça ne veut pas dire qu'on n'investit pas. On peut très bien avoir peu de trésorerie et bien gérer ses affaires. On peut très bien avoir beaucoup de trésorerie et avoir une gestion calamiteuse. Il a fallu quand même passer 2 ans avec des campings fermés, des plaisanciers qui ont eu aussi du mal à régler. Comme toutes les entreprises, on a parfois des défauts de paiement. Il a fallu assumer la perte de chiffre d'affaires. Il a fallu assumer le manque de trésorerie. Et par la Chambre des comptes le dit, par précaution, par sagesse, nous avons souscrit un PGE qui a été entre-temps depuis restitué, puisque nous avions la possibilité de le faire, pour être sûr de consolider les capitaux et les fonds propres de la société. Voilà, en gros, donc, alors bien entendu, le directeur dont vous parlez, je serai assez bref sur le point. D'une part, dire globalement que je ne me suis jamais mal entendu avec lui. Vous dire également que il est pour le moment sous le coup d'une maladie non professionnelle, donc il est en arrêt. Donc je ne pourrai pas intervenir comme je n'ai pas le droit de le faire avec le salarié concerné. Vous le savez bien. Sachez également que il reconnaît l'irrégularité de s'être octroyé le salaire de ses congés payés. C'est illégal. Il l'a reconnu. Il prendra certains engagements au moment de solder son contrat de travail et au moment de son départ à la retraite.
Ouais, alors Monsieur Nadal, bon, moi je vais faire court, mais je vais, parce que bon, je comprends que vous jubiliez, je vous laissez dans votre jubilation d'ailleurs quelque temps, pour vous dire la chose suivante. Oui, ce rapport est pas bon, je vous l'accorde. Deux, la Sodéal n'est pas en péril, puisque le salarié, enfin les comptes aujourd'hui de la Sodéal, ça fonctionne. Il n'y a pas de risque, en effet, de mise en chômage des employés. Par contre, il y a un problème sur la convention collective des ports, en effet, vous l'avez dit, qui octroie des salaires qui augmentent mécaniquement, M. Ivars s'en souvient, de manière plus forte, par exemple, qu'un agent public. Voilà. Donc, je vais quand même vous dire 3 choses. La première chose, quand j'ai vu la première lecture de ce rapport, j'ai demandé à ce qu'on remplace le directeur. Ça a été fait. Il y a un nouveau directeur aujourd'hui à la Sodéal. Donc il
vient de dire qu'on pouvait.
Non. J'ai un directeur adjoint. Excusez-moi, Monsieur Nada. Ne jouons pas sur les mots. Il y a un nouveau dirigeant, un directeur adjoint, qui occupe les fonctions de directeur. Voilà. Hein. Mais Monsieur Nadal, la chambre régionale nous dit bravo d'avoir délégué les campings à quelqu'un d'autre. Alors ne transformez pas tout. Non, mais je vous ai laissé parler, je vous ai écouté jusqu'au bout. Hein. Et je suis d'une patience rare avec vous. D'accord? Donc vous m'écoutez. Merci. Donc les campings, on a très bien fait de les déléguer, pas de les vendre, comme ça a été dit, à une nouvelle société. D'ailleurs, les investissements sont faits et ces campings fonctionnent très bien, 4-5 étoiles. Et aujourd'hui, on a largement augmenté le nombre de nuitées. Je ne reviens plus sur les campings parce que très franchement, c'est un non-sujet. Sur l'histoire donc de l'ancien directeur, il a été remplacé. Voilà, il y a quelqu'un qui fait fonction, vous savez très bien qui c'est, et dont les choses se passent très bien actuellement. Deuxièmement, puisque vous en avez parlé, sur l'augmentation des tarifs. Je veux quand même rappeler une chose. L'augmentation des tarifs l'année dernière, qui a été de 12%, l'inflation prévoyait 6,6%. Cette année, elle va prévoir 9,8%. J'ai demandé donc au président de n'impacter aucune augmentation de tarifs pour l'année prochaine. Je tiens quand même à le dire. Ce qui veut dire que si nous avions appliqué les tarifs classiques, c'est-à-dire l'inflation sur le fameux indice à la consommation, les tarifs auraient plus augmenté si on avait juste suivi au fil des eaux cela que si nous avions augmenté de 12%. Voilà. En gros, ça équivaut à une non-augmentation de 5%. J'ai les chiffres qui sont là. Troisièmement, Monsieur Nadal, et j'en terminerai par là, fort de ce rapport, puisque ça fait 25 ans que cette Sodéal existe, hein, je rappelle que c'est pas moi qui l'ai créé, c'était mon prédécesseur, Monsieur Passérieux, ça fait 25 ans que cette société fait polémique. C'est pas la première fois qu'un rapport de la Chambre régionale déclenche polémique. Donc je suis en train de réfléchir très sérieusement au changement de statut de cette société et de la remunicipaliser s'il le faut. Je suis en train de réfléchir avec la Banque des Territoires, qui sont un autre actionnaire sur justement cette société, de manière à remettre les choses de manière la plus transparente possible. Voilà. Je veux bien que vous me qualifiez à chaque fois de vouloir être dans l'opacité. J'ai jamais été dans l'opacité, toujours dans la transparence. Et sur toutes les activités portuaires, nous sommes en train de réfléchir à revenir à quelque chose. Voilà, on est en train de faire ces études-là, on est en train de les mener aujourd'hui avec d'autres partenaires pour voir exactement quel statut nous allons adopter de manière à ce que les choses soient parfaitement claires et parfaitement transparentes. Mais je veux quand même vous rassurer, Monsieur Nadal, aujourd'hui, les comptes de la Sodéal vont bien, il n'y a pas de risque de chômage, il n'y a pas de risque de faillite de la société, loin s'en faut. Quant aux investissements, je tiens quand même à rappeler à l'ensemble, et ça vous avait pas échappé, que l'État vient de nous octroyer une subvention de 550 000 euros sur la réfection de la zone technique. Voilà, on va nous mettre 4 millions d'euros. Je rappelle aussi que l'ancien rapport de la Chambre régionale des comptes reprochait à la Sodéal de trop investir. Maintenant, on nous reproche de pas assez investir. Bon, si on a eu 550 000 euros de subvention de l'État, on est quand même le port qui a eu la plus grosse subvention sur toute l'Occitanie. Je tiens quand même aussi à le préciser. Donc ça veut dire que la Sodéal, dans les deux dernières années qui restent, et encore une fois, peut-être que ça ne sera plus une société d'économie mixte d'ici là, donc doit investir lourdement, et notamment sur les quais, soulever le quai de la Trirème, de manière à ce qu'on puisse avoir un port qui soit en parfait état de marche, même si, Monsieur Nadal, ça vous a pas échappé, le port est grand, voilà, hein, de tout avoir tout neuf, tout bien, c'est quand même un peu compliqué. Les investissements sont très lourds en matière portuaire, et aujourd'hui je crois que nous avons investi 3 millions d'euros hein, sur la zone technique. Il y a 550 000 euros que nous avons eu en subvention. C'est assez rare pour le souligner. Et je rappelle aussi que nous avons, pour faire de l'équité vis-à-vis des tarifs des plaisanciers, au passage, Madame la Chambre nous reproche de ne pas assez avoir réuni le conseil des usagers du port. On n'a rien contre le conseil. Je rappelle qu'il y avait eu 2 ans de Covid quand même, hein, qu'on n'avait pas trop le droit de réunir des gens. Non, mais je le dis au passage, parce que la Chambre, parfois, c'est pas parole d'évangile. Il y a eu quand même 2 ans de Covid. Voilà. J'étais le premier à vouloir qu'on les réunisse à nouveau une fois le Covid sorti. Voilà. Donc aujourd'hui, Monsieur Nadal, voilà exactement la feuille de route que je me donne. Hein, investissement maximal. Donc, bien sûr, le changement de directeur est déjà opéré. Les tarifs, on arrête de les augmenter, c'est clair. Et même quand on pourra les baisser, à la faveur, je le dis, des nouvelles bornes électriques qui vont, responsabiliser chaque plaisancier, ce qui est en train d'être fait et d'être investi, hein, pour que chaque plaisancier paye exactement la redevance de, par rapport à sa consommation d'eau et d'électricité, ça fera baisser à ceux qui seront vertueux les tarifs à terme. Et donc ça, je m'y engage également. Et puis de repenser complètement le statut de la SODEAL aujourd'hui, de manière à ce qu'on sorte de ces débats qui, moi aussi, finissent par m'enquiquiner, je vous le dis très clairement, et pour lesquels, encore une fois, je n'y suis pas à l'origine. Voilà, je tiens quand même à le rappeler, hein, puisque je vois que vous voulez me faire porter le chapeau de A jusqu'à Z. Et puis, pour quand même exonérer le président, vous savez, quand on travaille avec un directeur, il y a le mot « confiance », hein, qui doit normalement s'établir. Moi, j'ai confiance à mon directeur général des services. Voilà. Donc, un président, son rôle est d'abord politique, hein, et c'est vrai que le rôle du directeur est normalement, voilà, d'exprimer cette confiance auprès de son président. Voilà, ce qui n'a pas toujours été le cas, et je le regrette. Voilà ce que je voulais dire. Allez-y, hein, si vous voulez réagir, il n'y a pas de problème. On peut faire un débat jusqu'à 10 heures du soir. Allez-y, monsieur Figueras.
Non, il n'y a pas besoin. D'abord, je tiens à préciser par rapport à ce qui a été dit que, croyez-moi, monsieur le maire, on ne jubile pas du tout sur ce rapport. Il n'y a rien qui nous
fait
jubiler là-dedans.
Tant mieux.
Donc, après, ce que je veux dire, je ne sais pas si le micro marche bien, ce que je veux dire, c'est que je crois qu'à un moment donné, déjà, et je pense que c'est ce que va dire Madame Varesano, il faut arrêter avec le Covid. Le Covid, ça a été une mauvaise passe pour tout le monde, mais comme l'écrit la Chambre, le Covid n'est pas la seule explication, c'est ce qu'ils écrivent noir sur blanc. Je reviens sur le remplacement, vous parliez tout à l'heure du directeur, parlons-en. Donc le rapport précise tout, c'est un rapport, je rappelle, qui part de 2017 jusqu'en 2022. Le directeur a été en maladie de 2017 à 2019, me semble-t-il que c'est écrit dans le rapport. Ça veut dire que dans les 3 ans qui ont suivi, il n'a toujours pas été remplacé.
Oui, parlez du directeur des campings, excusez-moi. Oui, parce que
du directeur des campings.
Là, je ne pas les pinceaux.
Donc, voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on dérive là-dessus. Le directeur a été en maladie. Je vous rappelle qu'en droit français, il y a déjà des contrats de remplacement qui existent pour les gens qui ne sont pas là, surtout à des postes aussi importants. Et dans les 3 années qui ont suivi la rupture de contrat...
Je peux juste vous dire une chose, monsieur Figueras. On ne va pas polémiquer sur le directeur des campings. Franchement, je n'ai pas dit que ce soir, en plus, il est là. C'est très dérangeant. Voilà, oui. Je n'ai pas du tout envie qu'on polémique sur ça.
Mais je préfère le préciser.
Mais je préfère le dire...
D'après ce que j'ai compris... D'emblée,
parce que je ne sais même pas pourquoi vous parlez des campings, parce que les campings aujourd'hui se portent très bien, je préfère quand même le rappeler.
Et pour finir là-dessus, vous parliez, donc, je reviens sur les... Il parlait des campings en régie municipale qui étaient pour beaucoup fermés, c'est ça, hein, donc ça veut dire qu'en régie ça ne marche pas trop, en tout cas qu'ils ne peuvent pas lutter, c'est ce que vous avez dit sur les privés. Est-ce que dans le domaine portuaire, on ne serait pas dans la même configuration? Dans l'idée d'une remunicipalisation, comme vous dites.
Oui, c'est ce que je viens d'exprimer.
Est-ce que la compétitivité y sera aussi
Mais monsieur Figueras, je vais juste vous expliquer, avec la Banque des Territoires, qui est un des partenaires officiels de la SODEAL actuellement, nous réfléchissons au futur statut, et je vous donnerai les rapports de toutes ces études, et je choisirai, encore une fois, j'assumerai ce choix. D'accord, que ce soit bien clair. Je donnerai à l'actuel SODEAL le statut à la fois le plus transparent et le plus efficace possible. Voilà, parce que vous avez raison, il faut que les deux côtés soient entretenus. Hein, donc on est en train de comparer, c'est très technique tout ça, c'est très c'est très lourd, vous le savez en tant que comptable, et donc on est en train d'étudier ça. J'ai pas attendu le rapport d'aujourd'hui définitif, nous sommes déjà au travail. Voilà, je tenais à le dire.
C'est très bien. Il faut, de toute façon, on est tous d'accord qu'il faut réagir devant ça. Et j'espère, je vous ai écouté, qu'il y aura de la transparence, qu'il y aura tout ce qui
tout
va,
à fait.
Et que tout ce qu'on reproche, en tout cas pour une grande partie, ce rapport,
on ne le retrouvera plus à l'avenir. Je suis bien d'accord. Alors, qui c'est qui veut réagir, Monsieur Nadal?
Oui, je voudrais confirmer quand même que quand on lit ça, il n'y a pas de jubilation. Ça serait parce que derrière, quand même, bon, il y a des hommes et des femmes. Il y a quand même une activité quand même qui est belle. La SODEAL, c'est une belle structure.
Fait.
Et on ne peut pas construire quoi que ce soit sur le malheur des autres. Enfin, dans n'importe quelle situation. Mais quand je vous entends, monsieur, quand je vous entends, je me dis, est-ce que vraiment on a lu le même rapport? Parce que finalement, vous nous parlez, ce rapport a mis en surbrillance, il y a quelques dysfonctionnements.
Oui, monsieur Nadal, j'ai lu le rapport.
Je parlais aussi au directeur, après je vous répondrai si vous voulez bien, monsieur le maire.
Président, vous voulez dire, au président. Parlez du président.
Au PDG, au président, directeur président. Général et du conseil d'administration. On a l'impression qu'il y a... Que ce rapport vous a pas affecté. Enfin, est-ce qu'il y a vraiment, comme s'il y avait un déni, comme s'il n'y avait pas eu une prise de conscience un petit peu de ce qui est écrit dedans, quand même. Ce qui est écrit dedans, c'est des mots qui sont violents.
Mais vous m'avez pas écouté, violent. Monsieur. Mais vous m'avez pas écouté, là.
Mais je parle pour le moment,
oui, monsieur. Oui, mais moi, mais vous m'avez mis en cause, monsieur Nadal,
oui,
je rappelle.
Après, si vous voulez bien.
Vous m'avez mis en cause.
Oui, bien sûr.
Donc, je viens de vous répondre et vous me dites, vous êtes dans le déni. Vous m'avez pas écouté.
Je parlais, si vous le permettez, au président. Au PDG, d'accord. Et après, je m'adresserai à vous, oui, si vous le permettez.
Donc, je vous permets tout.
Merci. Et donc, quand on lit ça, et bon, après les démonstrations et les arguments que vous nous avez évoqués, d'ailleurs, avec un très beau déroulé, avec un très beau phrasé, et c'est vrai qu'on aurait envie de vous croire, mais quand on revient à ce qui est dit, et encore une fois, ce que j'ai lu, c'était pas de l'interprétation, c'est strictement ce qui a marqué dans le rapport. Alors, je sais bien que, finalement, on pourrait dire que la Chambre régionale des comptes, c'est... Bon, ce qu'ils disent, on s'en fout un peu, mais quand même, ils ont fait une expertise quand même assez poussée, et les termes qu'ils emploient sont quand même des termes assez précis. Donc, encore une fois, il n'y a pas de jubilation, et la prise de conscience, je pense, qu'il faut avoir, elle doit être quand même assez importante pour changer toute la gouvernance. Alors après, vous dites, mais on n'était pas trop au courant, finalement, on ne savait pas qu'il se passait tout ça. Finalement, personne ne sait ce qui se passait dans cette société, mais quand même, il y a un contrôle, le niveau de contrôle de la société, elle se fait par le CRAC, le compte rendu annuel à la collectivité, ce qui est un rapport moral et financier de l'activité, à travers différents domaines. Et ce crack, quand même, il est présenté régulièrement. Alors à ce moment-là, plus personne lit n'importe quoi, enfin, plus personne lit rien. Et ce qui est dit dans le rapport de la Cour des comptes, de la Chambre régionale des comptes, pardon, c'est que ce rapport n'était pas sincère. C'est ce qui est dit. C'est-à-dire que les termes sont précis.
On les a entendus, monsieur Nadal. Oui, vous n'allez pas nous les relire.
Oui, non, mais il ne faut pas quand même dire finalement circuler rien à
voir.
Adresse...
J'ai pas dit ça.
Circuler rien à voir. C'est ce qui
monsieur Nadal,
passé,
je ne vais pas vous
même...
redire ce que je viens de dire. Je crois que j'étais très précis dans ce que je viens de dire. Ou vous m'avez pas écouté. Vous voulez je redise la même chose? Voilà, je suis désolé, mais je ne vais pas vous répéter 50 fois ce que je viens de dire. Voilà. Donc, si vous m'avez pas écouté, c'est dommage. J'ai pris très au sérieux ce rapport. Voilà, je peux pas vous dire mieux.
Et du coup, les conséquences par rapport à la gouvernance, est-ce que vous comptez faire évoluer la gouvernance?
Je vous dis que je compte faire évoluer les statuts de la SODEAL. Voilà. Pour l'instant, c'est ça. Le directeur qui est mis en cause dans ce rapport a été remplacé. Voilà, c'est clair. C'est très clair. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus? Non? Oui?
Oui, rapidement, je veux juste répondre à monsieur Hugonnet. Je pense qu'avec un tel constat, un tel rapport, il n'est pas nécessaire d'être devant une cour pour plaider coupable. J'ai l'impression que vous vous dédouanez, en effet, hein, toujours le Covid, certains, et ça me laisse assez pessimiste pour l'avenir. Quand on n'a pas de prise de conscience, mais je pense qu'on
le Covid, j'en parlais juste pour le comité local des usagers du port. Hein, j'en ai
oui,
pas parlé pour autre chose.
Oui, bah, monsieur Hugonnet ouais. aussi s'en est oui. servi, je ne sais plus pourquoi.
Oui, bah bon, c'est donc, pas, voilà. on va pas revenir.
Je pense qu'il a bon dos et...
Très voilà. bien. Bon, donc nous prenons acte de ce rapport. Monsieur Toureau...
Monsieur le maire, juste une observation oui. pour vous répondre, madame Varezzano. Je vous l'ai dit aussi, le rapport est peu glorieux. Maintenant, en tant qu'élu, chef d'entreprise, on l'assume, on fait front, on fait face. Et si j'avais voulu me dédouaner de quoi que ce soit, madame Varezzano, j'aurais eu la possibilité de faire supprimer mon nom sur les rapports. Or, il ne vous aura pas échappé qu'il n'y a que mon nom qui est mentionné et que les autres sont qualifiés par des initiales, qui d'ailleurs ne correspondent pas toujours à leur véritable nom. Moi, je ne l'ai pas souhaité parce que j'assume, je vous le dis, je fais front, je fais face. Donc, je n'ai pas l'habitude de me dédouaner et je vous donne rendez-vous dès la fin de l'année pour vous présenter quelques chiffres et ça me permet de répondre à M. Figueras qu'ils seront, je vous le certifie, beaucoup plus éloquents.
Bien, merci Monsieur Hugonnet pour ces dernières explications. On passe au rapport sur sur les campings. Voilà, ça tombe bien.
Ça tombe très bien. Alors, il s'agit du rapport 2022 des concessionnaires de services publics concernant l'exploitation des campings de la Clape et de la Tamaricière. Afin d'assurer la transparence et d'informer la collectivité, tout concessionnaire doit produire chaque année un rapport comportant notamment les comptes du contrat de concession et une analyse de la qualité des services permettant à la collectivité d'apprécier les conditions d'exécution du service public. La SAS Cottage Park Méditerranée a ainsi transmis son rapport annuel 2022 pour la DSP d'exploitation des campings de la Clape et de la Tamaricière. Pour rappel, le nouveau contrat a été conclu le 30 avril 2021 pour une durée de 17 ans et 8 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2038. La totalité du rapport est présentée en annexe de la présente délibération. L'année 2022 a ainsi été marquée par la poursuite des bons résultats, avec une fréquentation en forte hausse, plus 58%, et un résultat comptable consolidé sur les deux campings, ressortant à 490 millions d'euros. Les engagements de travaux prévus au contrat ont permis également une forte montée en gamme des prestations offertes sur les deux campings.
Merci Guilhem. Bon, y a-t-il des remarques là-dessus ? Non ? Oui ?
Dans ce rapport, une fois de plus, l'occasion de rappeler que diverses décisions de justice concernant le camping de la Tamaricière ont été prononcées. Suspension puis annulation pour l'implantation de 40 habitations légères de loisirs. Suspension pour la réalisation d'un espace aquatique. Suspension pour la réalisation d'un lagon.
Et vous êtes content de tout ça ? Dites-le, ça vous fait du bien, ça vous fait plaisir ?
Je ne vous ai pas interrompu, oui,
mais vous énumérez les décisions de justice, dans quel but ? Ça vous fait plaisir ?
Ben non,
assumez-le. Est-ce que ça vous fait plaisir ?
Laissez-moi terminer, après, si vous voulez, nous entamerons la discussion.
Hein. Parce qu'on les connaît, les décisions de justice, elles sont dans le journal, vous n'avez pas besoin de les réégrener. Hein.
Alors donc, je vous les rappelle.
Oui, mais je les connais par cœur.
Suspension puis annulation de l'implantation de 40 habitations légères de loisirs. Suspension pour la réalisation d'un espace aquatique. Suspension de la réalisation d'un lagon. En dépit de ces différentes décisions de justice, force est de constater que ces travaux illégaux se sont poursuivis durant toute l'année 2023 dans ce camping, comme si rien n'était. Donc nous attendons bien sûr les jugements de fond. On n'a pas à se satisfaire ou à pas
vous
se satisfaire
satisfait.
De la
loi. Monsieur Nadal, mais assumez-le.
Assumez-le. Pas ça parce que vous voulez faire reporter un chapeau.
Mais
dont
si,
vous êtes purement responsable.
Assumez que vous êtes ravi de tout
pas.
Ça.
Non, on n'est pas ravi, monsieur Dumas.
Mais si,
encore
ça
une
se
fois,
voit.
On n'est pas ravi du malheur des autres et dans les affaires, c'est jamais comme ça.
Il n'y a pas de malheur.
On vient de. Si, parce que quand même, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Et donc, cette délibération nous est présentée d'un rapport d'activité et un rapport comptable. Mmh. Et donc, alors on en reviendra peut-être sur une autre fois, mais il y a des manquements dans ce rapport aussi. Et on espère que le suivi de cette activité donc, sur les campings se fera quand même de manière plus stricte que celle qui a déjà eu lieu.
Et on très bien, monsieur Nadal.
Sur la Sodéal.
Bon,
merci.
À part de vous faire le porte-parole d'Agathe, c'est bon, il y a rien d'autre ? Parfait.
Dans
le général, c'est vous. C'est vrai, dans le général, c'est vous.
Madame, moi, c'est
vous, la porte-parole.
Moi, je suis le porte-parole de la Tamaricière,
voilà.
Les arbres, monsieur.
Oui, oui, oui.
Arbres.
Mais les arbres, tout va bien, monsieur Nadal, les arbres. Je tiens à le rappeler, quand même. Hein. C'est l'ONF qui les gère avec la communauté d'agglomération. Et je rappelle que la propriété est municipale. Bien. Allez, donc, le rapport suivant. On en prend acte, le rapport suivant. Monsieur. Comment? Hein? Ah, excusez-moi, monsieur Figueras. Je vous avais pas vu à deux voix.
Non. Oui, donc sur ce rapport d'activité des campings, on en avait parlé lors du premier rapport, quasiment l'année dernière, je crois que c'était un peu avant, où je vous avais dit qu'ils étaient très légers, qu'il fallait peut-être être vigilant sur le fait qu'il faudrait qu'ils étoffent un peu et qu'ils, en tout cas, respectent les règles de la concession sur certaines dispositions qui doivent figurer dans ce rapport. Force est de constater qu'elles n'y sont toujours pas. Donc, comme le disait Monsieur Nadal, est-ce qualité d'élu et pas de docteur, on n'a pas d'éléments. Donc, on s'inquiète par rapport à la délibération précédente de.
Il y a tous les éléments, Monsieur Figueras. Il fait 220 pages, le rapport.
Oui, il peut en faire 500 s'il ne met pas les éléments qui doivent y être. Il n'y a pas d'annexe comptable, il n'y a pas de rapport sur les insertions. Enfin, il faut relire les contrats de concession. Il y a beaucoup de choses qui n'y sont pas. Je pourrais vous les lister, vous les envoyer.
Okay.
Alors, au-delà de ça, ce qui m'interroge, ce sont les investissements dont on a longuement parlé avant et pendant la prise de la concession. Vous faites état dans la délibération d'un engagement aujourd'hui à hauteur de 2,5 millions quasiment sur la CLAP et de 4 millions sur la TAMA. On est donc à 6,5 millions hein, pour faire simple. La concession prévoyait à fin 2022 un investissement déjà à hauteur de 11 millions. On n'y est pas. On est
à la moitié. Mais c'est en cours. C'est parce que les raisons comptables, c'est que parfois on nous fournit les justificatifs qui sont à cheval d'une année sur l'autre, vous le savez.
Oui, mais je vous parle justement de fin 2020, date du rapport.
Oui,
à fin 2023, on doit être...
Nous avons d'ores et déjà, nous avons la preuve que l'argent est investi entre 2022 et 2023.
C'est parfait, parce que du coup, la preuve, elle doit émaner, c'est écrit dans la concession, d'un comité de contrôle qui aurait dû être nommé, qui doit nous rendre un rapport. Est-ce que vous avez ce rapport?
La commission,
il n'y est pas sur la délibération.
Monsieur Dumont était à la commission de
contrôle. Non, ce n'est pas la commission, c'est le comité de contrôle.
Je parle de la CCSPL qui est légale. Hein, il y était là, monsieur Dumont, et nous avons échangé sur tous ces points. Vous auriez dû d'ailleurs venir à sa place, puisque a priori, vous êtes plus fort que lui.
Parce qu'on ne parle pas de la même chose, je suis plus fort que personne, moi. On ne parle pas de la même chose. Dans le contrat de concession... Il est stipulé clairement dans un article, qui est l'article 23, vous pourrez le vérifier.
Oui.
Un comité de contrôle se réunit au moins une fois par an pour s'assurer du suivi et du contrôle du respect du programme et du plan d'investissement. Les réunions du comité donneront lieu à l'établissement de comptes rendus.
Et je vous dis qu'elle a eu lieu.
Où sont les comptes rendus? Pourquoi on n'en fait pas mention dans la délibération?
Vous avez 220 pages, monsieur Figueras.
Ah,
je ne vais pas me répéter
vous
toute la soirée
pas.
Avec ça.
C'est pas grave, vous répondez pas.
Je vous en prie. Bien. D'autres interventions? Sinon, monsieur Touron, on passe à la question suivante, puisqu'on en prend acte aussi.
Tant qu'à faire, oui, mais excusez-moi.
C'est l'électricité.
Yes. Alors, dans le cadre du partenariat public-privé pour la gestion de l'éclairage public, le rapport d'activité au titre de l'année numéro 15... Cette exploitation de l'éclairage public a été confiée par délibération du Conseil municipal en date du 2 juillet 2007 au groupement d'entreprises Sogetralec, Border Sanchis et Cité l'Homme. Le Conseil municipal est appelé à prendre acte du rapport d'activité au titre de l'année numéro 15 du contrat qui couvre la période du 1er septembre 21 au 31 août 2022. Ce rapport d'activité a été présenté pour avis à la Commission consultative des services publics locaux.
Très bien. Sur ce rapport, y a-t-il des remarques? Non, on n'a pas acte. Véronique, pour la question suivante, Salgas.
Oui, merci, monsieur le maire. Il s'agit d'une adhésion à une charte départementale. En raison des derniers épisodes de sécheresse et afin d'éviter autant que possible les tensions à venir sur la ressource en eau, la MF34 a décidé d'inviter les communes et les intercommunalités de l'Hérault à adhérer à une charte d'engagement « Économisons l'eau, ma commune s'engage », ainsi qu'à désigner un élu référent eau au sein de leur conseil. Véritable plan d'action d'urgence et de responsabilité face à la sécheresse, cette charte prévoit 13 engagements des signataires, dont par exemple... la conception et le déploiement d'un plan d'économie maximale sur l'ensemble des équipements et des bâtiments communaux, ou encore des opérations de concertation avec les acteurs économiques et sociaux du territoire, mais aussi des opérations de sensibilisation des populations et facilitation de la mise en œuvre des pouvoirs de police du maire. Le Conseil est appelé à se prononcer sur cette adhésion et de désigner un élu référent.
Merci, Madame Salgas. Y a-t-il des remarques sur cette délibération? Sinon, qui est contre et qui s'abstient, donc adopté. Bon, la suivante, c'est une loi que nous devons appliquer, nommer un référent déontologue. Je vous propose la candidature de Gérard Mia, ancien adjoint aux finances, qui s'est proposé à ce poste. Y a-t-il des remarques? Oui, Madame Varezon.
Oui. Moi, je trouve assez surprenant de découvrir donc la nomination de Monsieur Mia comme référent déontologue, car il a travaillé à vos côtés pendant plusieurs mandats et jamais nous ne l'avons vu s'opposer à l'une de vos décisions. Donc pourquoi ne pas avoir proposé cette mission à une personnalité non suspecte de complaisance à votre égard? Je vois là la bonne occasion donc de saisir le référent déontologue pour lui demander de vous faire respecter la loi sur la retranscription des débats sur le procès-verbal de la séance afin de rendre compte à l'ensemble des citoyens de ce qui se passe pendant la séance du Conseil municipal, notamment le résumé des débats avec les élus d'opposition lorsqu'ils interviennent avant le vote d'une délibération. Donc ma dernière question pour ce soir sera, si Monsieur Mia vous demande d'appliquer la loi en vigueur depuis le 1er juillet 2022, accepterez-vous qu'un procès verbal en bonne et due forme soit enfin réalisé?
Alors Monsieur Mia n'est pas officier de police, hein, il sera déontologue, et Monsieur Mia, je pense, est une personnalité au-dessus de tout soupçon. Voilà. Et Jean répond.
Et ma dernière question?
Oui.
vous appliquerez le...
Je vous dis, Monsieur Mia n'est pas là pour faire officier de police. Voilà. Il est déontologue. Hein. Vous redisez ça à quoi ça sert un déontologue. Oui, Monsieur Nadal.
Nous voterons bien sûr cette délibération. On connaît Monsieur Mia et on n'a aucun doute sur... Sur sa moralité. J'aurais simplement voulu savoir quel était, pour les élus, le rôle du déontologue. Dans quelles circonstances un élu peut le saisir?
Je vous donnerai le texte.
Quel est son rôle?
Je ne sais pas. J'ai pas le texte par cœur dans la tête, Monsieur Nadal.
Mais son rôle, au moins ça.
C'est déontologue. Voilà, il vérifie la déontologie de...
C'est court.
Voilà.
C'est cool.
On vous passera le texte, Monsieur Nadal.
Non, pas le texte, on aurait mieux à
voir. On fera un interro la prochaine fois, vous nous expliquerez ce qu'est un déontologue.
Ah non, pas moi, vous.
Voilà. Mais non, mais ça peut être un exercice pour vous. Hein. Vous étiez quelqu'un de sérieux à l'école, j'en suis sûr. Bien, allez, donc qui est contre la nomination de Monsieur Mia, qui s'abstient, donc c'est adopté. Madame Mertens, pour les trois questions qui suivent.
Oui, merci Monsieur le maire. La collectivité peut indemniser les agents exerçant des fonctions essentiellement itinérantes à l'intérieur d'une commune, dotée ou non d'un réseau de transport en commun régulier. Le montant maximum de cette indemnité est fixé par arrêté et a été revalorisé. Il est proposé de modifier la liste des fonctions autorisées à utiliser leur véhicule quand l'intérêt du service le justifie. Il est également proposé de modifier les montants attribués aux agents en fonction du nombre de kilomètres parcourus.
Merci. Y a-t-il des remarques là-dessus? Sinon, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La suivante, Marion.
Comme chaque année, la ville souhaite contribuer en partenariat avec son tissu associatif à la pérennisation des activités d'aide et de services proposées aux agathois en apportant un soutien significatif. Il vous est donc proposé de mettre à disposition certains agents communaux pour des durées de services limitées au profit d'associations sportives, d'animation ou éducatives, ainsi qu'au profit d'établissements publics.
Merci, Marion. Des remarques là-dessus, sinon qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. La 25.
La 25, c'est la modification du tableau des emplois, comme chaque fois.
C'est la 26, en fait, pardon. Sur la modification du tableau des emplois, des remarques, sinon qui est contre, qui s'abstient, donc adopté. Sur le compte rendu de décision du maire, des questions? Non. Eh bien, je vous remercie. Passez une bonne fin de soirée.